Ok, alors on va, Bezrat Hashem, commencer notre deuxième cours sur le chapitre 23. Marcel, je commence, hein, doucement.
Alors, je sais plus où tu t'es arrêté.
Donc on va commencer notre deuxième cours sur le chapitre 23. Je fais un résumé de ce qu'on a fait la semaine dernière.
Oui, c'était pas la semaine dernière.
Ah bah ça tombe bien, très bien. Ah oui, Chazak. Donc, on a expliqué, la semaine dernière, que souvent, dans la Kabbalah, les mitzvot sont comparés aux membres d'Akadosh Baruch Hu. Vous suivez? Donc on a dit la semaine dernière que souvent dans la Kabbalah, les membres sont comparés, enfin les mitzvot sont comparés aux membres d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment, nous savons que Dieu n'a pas de corps. On est d'accord. Donc quand le Zohar ou le Chumash ou la Gemara, oui bien sûr, ah oui, c'est écrit En lo de mutagu venugu, c'est écrit Dieu n'a pas de forme de corps, ce n'est pas un corps. Donc ça on le sait. Donc, parce qu'on sait, on sait qu'il n'a pas de corps, parce que c'est lui qui a créé le concept d'un corps. Il n'y a pas, Dieu, il n'a pas de corps. Un corps, il est limité. Un corps, il est limité dans le temps. Tout ce qui a un corps est limité dans le temps. C'est une création qui est limitée, forcément. Dieu n'a pas de corps. Alors, dans ce cas-là, quand on dit que les mitzvot, c'est les membres du roi, c'est pas que Chas v'Shalom, Dieu, il a des membres. À chaque fois, quand on nous donne une image, dans la Torah, dans le Zohar, dans la Gemara, dans le Chumash, c'est que, on veut expliquer une idée à une personne, et on va essayer de trouver quelque chose dans son monde qui correspond le plus à l'idée qu'on veut lui exprimer. Et par rapport à ça, on va lui donner cet exemple. Exemple qu'on a pour aujourd'hui. Si Akadosh Baruch Hu, pour nous expliquer les mitzvot, il a dit que les mitzvot sont comparés aux membres d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que Dieu est conscient qu'on a du mal à comprendre qu'est-ce que c'est une mitzvah. Alors pour nous expliquer ce que c'est une mitzvah, il dit, écoute, c'est très simple. Tu vas prendre l'exemple de tes membres, les membres du roi. Alors on a donné plusieurs caractéristiques du membre la semaine dernière, pour ceux qui étaient là. D'abord on a expliqué, premièrement, est-ce que vous vous rappelez combien de membres nous avons dans notre corps?
248 membres.
D'accord. Pourquoi il y a 248? Si une personne va dire, par exemple, je peux me passer d'un membre, je peux en avoir 247. Qu'est-ce qu'on va dire?
C'est
pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que, bien sûr qu'on peut. On peut toujours vivre. C'est pas un organe vital. Mais si Dieu il a créé 248 membres, ça veut dire que chaque membre est dédié, chaque membre a une fonction spécifique. Ah, pourtant, il y a des membres que la médecine aujourd'hui n'a pas encore réussi à trouver à quoi ça sert. Vous savez qu'il y a des membres aujourd'hui que, bon, les médecins disent, ce membre-là, c'est pas qu'il sert à rien. C'est qu'on n'a pas compris à quoi il sert. Et BMET, il y a des fois des membres qu'on a enlevés à des gens et qu'ils ont continué à vivre normalement, il n'y a pas de problème. Alors quoi, Dieu l'a créé pour rien?
Non.
Évidemment non, ça n'existe pas. La preuve, c'est que si on va aller voir une personne qui, justement, on va lui dire, voilà, tu sais, les médecins, ils ont dit, ce membre-là, il n'est pas vital, viens, on te l'enlève. Qu'est-ce qu'il va répondre? Il dirait, touche à ton corps, tu ne touches pas mon corps. Pourquoi? Parce que chaque membre est un membre qui est important. Si Dieu l'a créé 248 membres, c'est qu'ils sont importants. De la même manière, on a expliqué, si Akadosh Baruch Hu nous a donné, d'accord? Alors, Baruch Hu t'a donné le problème chacun des membres.
Moi j'en veux pas, je vais prendre de l'eau.
Bonsoir. Alors, de la même manière, on a expliqué. Si Akadosh Baruch Hu nous a donné. Il pleut encore dehors, Jackie?
Un petit peu.
Il pleut dehors encore?
Il pleut pas mal maintenant.
J'ai la bouteille. Donc, de la même manière, on a expliqué. Si Akadosh Baruch Hu nous a donné 248 mitzvot, ça veut dire que chacune des mitzvot est vitale. Est-ce qu'on peut se passer d'une mitzvah? Si une personne il va dire par exemple. Moi, je pense que je peux me passer d'une mitzvah. Je peux me passer des téfilines, je peux passer des mitzvot. Qu'est-ce qu'on lui répond? On va lui répondre de la même manière que tu as 248 membres et que chacun de ces 248 membres est important pour ton corps. De la même manière, chacune des mitzvot est importante pour ta neshama. Et je peux pas venir, moi, et dire un membre est plus important, un membre est moins important. D'accord? Donc ça, c'est la raison pour laquelle, première raison pour laquelle, bonsoir, les mitzvot sont comparés aux membres du. Deuxième chose qu'on a expliqué la semaine dernière. Vous êtes avec moi, monsieur?
Ah, oui.
Okay.
On y est.
Deuxième chose qu'on a expliqué la semaine dernière sur les membres. On a expliqué que il y a une énergie générale dans le corps. Et après, cette énergie est dispatchée dans différents membres. Ça veut dire qu'il y a une volonté générale du corps, de la neshama, de s'exprimer. Maintenant, cette volonté de s'exprimer va utiliser différents membres pour arriver à ce qu'elle veut. Et on avait donné l'exemple, je le refais physiquement, comme ça vous allez certainement vous rappeler. On avait donné l'exemple, voilà. Tu rappelles l'exemple? Imaginez que je suis ici, et que je veux, dans ma tête, j'ai une envie de chercher, de récupérer le verre qui est ici. Donc qu'est-ce que je viens de faire? J'étais ici, hop, et je suis venu ici pour prendre ce verre. Quel sens j'ai dû mettre en fonction, et quel membre j'ai dû mettre en fonction pour aller chercher ce verre? plusieurs sens. D'abord, j'ai mis en fonction mes yeux qui ont vu le verbe. J'ai mis en fonction mon cerveau qui a réfléchi à ce que ce verbe correspond et que ce verbe j'en ai envie. J'ai mis en fonction ma volonté, donc mon cœur, mon désir qui dit j'en ai envie. D'accord ? Ça c'est avant même que j'ai bougé, j'ai pas bougé. Après, j'ai commencé à bouger. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai bougé mon pied, j'ai bougé l'autre pied, j'ai bougé mes mains, j'ai bougé mon corps. J'ai bougé beaucoup de choses. Après, je prends ce verre, je l'amène ici. C'est-à-dire que là, sans me rendre compte, une simple action que j'ai fait en une seconde, d'accord ? J'ai eu ici 15 membres qui ont participé. Et encore plus, même. Seulement, comme c'est un automatisme, donc je ne me suis pas rendu compte. Donc, de la même manière, c'est la deuxième raison pour laquelle on a expliqué que les mitzvot sont comparés aux membres du roi, pour dire que les mitzvot sont finalement complémentaires. De la même manière que les membres d'un homme sont complémentaires, de la même manière, les mitzvot sont complémentaires les unes avec les autres. Ça veut dire... Je vais mettre les tefillines, je vais à la synagogue, je vais mettre le talit, je vais faire la tzedaka. Plus je fais de mitzvot, et plus les mitzvot sont complémentaires, et plus, après j'ai un ensemble. Alors, si une personne va dire maintenant, elle va dire, oui, mais tu sais, moi je peux me passer de cette mitzvah. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme celui qui va dire, voilà, moi j'étais là, je vais chercher le verre. Il dit, moi je peux me passer de bouger mes pieds. C'est ma main qui va boire, alors je bouge pas mes pieds. Bah, vas-y, bouge pas tes pieds, tu vas rester là. Il dit, oui, mais j'ai regardé, mais j'ai mis ma main. Oui, mais t'as pas bougé tes pieds. D'accord, pareil, j'ai bougé les pieds, je ne peux pas bouger la main. Ça marche pas, c'est complémentaire. C'est un ensemble, c'est un tout. Quand tu fais toutes les étapes, c'est comme ça qu'on avance. Et ben, c'est la même chose. Quand Akadosh Baruch Hu nous donne 248 mitzvot, numéro 1, ça veut dire que chacune des mitzvot est importante, comme les membres, voilà, presque comparé aux membres. Numéro 2, les mitzvot sont complémentaires. Complémentaires dans le sens que, même si je ne comprends pas comment ça marche, et même si chaque membre comprend pas comment ça marche, mais chaque membre, il sait, on a expliqué à ce moment-là aussi un troisième point, qu'un membre, en bonne santé, c'est un membre qui obéit au cerveau. D'accord? Même s'il comprend pas. Quand le cerveau, il lui dit, fais ça, il écoute comme un soldat, il doit le faire, et c'est tout. De la même manière. C'est quoi une mitzvah? C'est quand je le fais.
Il n'est pas obligatoirement en bonne santé, le membre.
C'est vrai.
Il écoute quand même s'il est malade.
Oui, mais justement, un membre qui n'est pas en bonne santé, ce qui arrive malheureusement, c'est qu'un membre qui n'est pas en bonne santé, il n'écoute plus. C'est-à-dire qu'il est, quand il y a une paralysie, par exemple, ça peut être dû à plusieurs raisons. Mais une des raisons, des fois, ça peut être, c'est que le membre ne réagit plus aux ordres du cerveau. C'est-à-dire qu'il y a un membre qui est là, qui théoriquement aurait dû fonctionner, mais il ne fonctionne pas. Ok, chas v'shalom. Donc, on a expliqué trois points pourquoi les mitzvot sont comparés à des membres. Premièrement, pour dire qu'ils sont 248 comme 248 membres qui sont chacun nécessaires. Deuxièmement, la complémentarité comme les membres sont complémentaires. Et troisièmement, l'importance de la même manière que chaque membre est annulé, entre guillemets, c'est-à-dire chaque membre doit se soumettre aux ordres du cerveau. De la même manière, quand je fais une mitzvah, même si moi je comprends pas comment ma petite mitzvah va changer le monde, je dois faire confiance à Dieu qui est l'architecte et qui lui me dit, fais ma mitzvah et moi je suis lui qui va changer le monde. Ah, j'ai pas compris comment ça marche. Ok, tu peux ne pas comprendre. D'accord? Ça change rien. C'est comme si une personne va dire, par exemple, on est en train de construire une grande voiture ou un grand avion ou une grande maison et qui va dire, je comprends pas pourquoi la petite vis que je vais mettre ici, elle va tout changer. Eh ben, tu mets pas cette vis, ça peut faire un accident. Quand on fait des analyses d'accidents, des fois c'est une petite vis qui n'a pas été mise. Et à cause de cette petite vis, un avion il est tombé. Une vis. Tu mets un boulon, il est tout petit le boulon, l'avion il est énorme. Ben oui. Parce que maintenant celui qui a mis la vis, il n'a pas compris. Il dit, mais moi c'est rien, c'est pas le moteur, c'est rien, c'est une petite vis. Oui, d'accord, mais on t'a pas demandé de comprendre, on t'a demandé de le faire. C'est la même chose les mitzvot. Les mitzvot, on ne nous demande pas de les comprendre. Si tu les comprends, c'est mieux. Mais on te demande de les faire parce qu'il y a un plan, Dieu nous a donné un plan. D'accord. Ça c'était les membres d'Akadosh Baruch Hu qui sont comparés aux mitzvot. Ok. Maintenant. On va passer, voilà. Alors, on s'arrête la semaine dernière. Dans les mots. Qui se rappelle, on s'arrête dans les mots?
Je sais plus. C'était page 58.
Vous passez la Kizak, s'il vous plaît. Pour Avram.
Alors. Oui, ça, on l'a déjà expliqué. Voilà. Ah, Hamarshava Vairo. Bon, je sais pas si j'ai tout fait dans les mots, mais en tout cas, dans l'oral, on a expliqué. À l'oral, on a expliqué ce que sont les mitzvot. Alors, Ah, Hamarshava Vairo, je vais vous dire où on est exactement. Donc, on est dans le chapitre 23. Et on est, pour ceux qui ont le tania ici, le rouge, c'est la page 56, au milieu de la page, un peu après le milieu. Ah, Hamarshava. Voilà. C'est possible que j'ai pas tout lu dans les mots, hein, mais c'est pas grave. En tout cas,
86.
Voilà. Ah, Hamarshava, bonsoir. C'est l'étude, c'est le tien, Ah, Hamarshava? Voilà, 286. Ok. Maintenant, ce qu'on va expliquer aujourd'hui, on va expliquer l'étude. L'action, on a expliqué ce matin, ça on a expliqué. Que l'action, même si tu comprends pas ce qui compte, faut le faire, etc., on a expliqué. Ok. Maintenant, on va s'arrêter sur l'importance de la réflexion. Vous savez, on étudie la Chassidut Chabad. Et dans la Chassidut Rabbah Admor HaZaken, il insistait beaucoup pour qu'on ne fasse pas les choses bêtement. On peut être un juif religieux et servir Dieu toute sa vie bêtement. Ça veut dire qu'à un certain moment, j'ai appris le Shulchan Aruch, j'ai appris comment faire la Halakhot, je l'ai fait la Halakhot, bon, je le connais la Halakhot, je veux dire, je ne trébuche pas, je fais les choses comme il faut, et je peux rester toute ma vie comme ça, et j'arriverai en haut, je serai irréprochable, je n'aurai pas fait d'Averot. Mais est-ce qu'on est là seulement pour faire les choses sans se tromper? Il faut essayer de comprendre ce qu'on fait. Je ne dis pas que si on ne comprend pas, on va se tromper. Non, on peut avoir des gens qui ne comprennent pas. Ça veut dire qu'ils ont fait, si vous voulez, ils ont étudié jusqu'à 20 ans. Et à l'âge de 20 ans, ils ont fait un arrêt sur image, ils sont restés comme ça. Toute la vie, ils sont restés comme ça, ils sont restés le même. Le même, il fait le même Shabbat, le même Mitzot, les mêmes trucs. Mais bon, c'est kasher, je ne peux pas dire que ce n'est pas kasher ce qu'il fait. Seulement, ce qu'il va expliquer aujourd'hui, c'est que quand on veut avoir une relation saine avec Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas se suffire uniquement du côté machinal des choses. Sinon, ça ressemble à quoi? Je vais vous donner un exemple.
Un robot.
Regardez. J'ai des membres. On a dit, les membres, ils bougent. D'accord? Les membres, ils bougent, etc. Et donc, chaque membre, il a sa fonction. Et les animaux aussi, ils ont des membres. Et les animaux aussi, ils ont un cerveau qui réfléchit. D'accord? Ah oui. Ils ont des pulsions, ils ont des envies. Et ils ont aussi des membres qui sont complémentaires, exactement comme nous. Donc, finalement, si on va servir à Kadosh Baruch Hu seulement avec nos membres, mais qu'on fait pas, on réfléchit pas à ce qu'on fait. On fait les choses machinalement. Quelle différence entre moi et un animal? L'animal, il a des membres. Moi aussi, j'ai des membres. L'animal, il utilise tous ses membres de manière complémentaire pour aller vers son but. Moi aussi, j'utilise tous mes membres de manière complémentaire pour aller vers mon but. Quelle est la particularité que Dieu nous a donnée aux hommes? Il nous a donné une particularité qu'on est médaber, qu'on a la chorma. Et ce qu'il va expliquer ici aujourd'hui, c'est qu'on peut faire toute une vie de quelqu'un de religieux, qui est Shema Torah Mitzvot, et passer à côté de la vocation principale de l'homme, qui est que l'homme doit comprendre ce qu'il fait. Il est médaber, il parle, il comprend ce qu'il fait. Et si on n'a pas ça, on n'a rien compris. Donc là, c'est un deuxième pan maintenant du chapitre 23. Il va expliquer l'importance de comprendre ce qu'on fait. L'importance de comprendre, c'est ça ce qui fait la différence entre les hommes et les animaux.
La semaine dernière, vous avez dit le contraire. Vous avez...
Évidemment, ouais. Bien sûr. Parce que la semaine dernière, on parlait des mitzvot. Maintenant, on parle de la Torah.
Oui, non, mais on a dit la semaine dernière c'est pas la même chose. Que d'abord, même si on ne comprend pas, il faut le faire.
Vous avez raison. C'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. On a expliqué, c'est comme les membres qui doivent écouter le cerveau, même s'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils doivent écouter. Mais ça, c'est la première phase. Ça veut dire, on doit savoir qu'on doit écouter. Mais on peut pas rester toute notre vie à être machinal comme ça. Vous comprenez? Ça veut dire comme ça. Lorsqu'une personne, par exemple, il va rentrer dans une société, ou je sais pas, il va rentrer dans un travail. Ok, au début, on lui dit, écoute, fais ci, fais ça. Pourquoi? Fais comme ça. D'accord, ok. Il pose pas de questions. Il peut rester toute sa vie comme ça. Jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa retraite. Il fait les choses sans poser de questions, et il gagnera sa paye. Et il aura une belle retraite, il n'y a pas de problème. Il peut continuer toute sa vie comme ça. Mais si c'est quelqu'un d'intelligent, non, mais il faut qu'il se pose des questions. Il dit, mais pourquoi tu vas faire ça comme ça? Peut-être on peut faire ça comme ça. Alors, il n'est pas obligé de se poser ces questions. Et on lui reprochera pas de ne pas se les avoir posées. Il sera payé jusqu'à sa retraite. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Il n'a pas fait de faute. Mais c'est dommage. Dans ce cas-là, une machine aurait pu le faire. T'es pas une machine, t'es un homme. Faut réfléchir. Il faut utiliser ton cerveau. Ça, c'est le deuxième palier de notre cours. Pour te dire, une fois que tu as accepté le fait qu'il faut faire ce que Dieu te demande et que tu le fais, après, il faut essayer de comprendre ce que tu fais. Ce qu'on appelle la machashava. On va développer ça longuement aujourd'hui. Alors, cependant. A machashava ve'ahirur. La pensée et la réflexion. Bedivrei Torah chez Bemoar. Dans les paroles de Torah réfléchir à des paroles de Torah qui se passent dans le cerveau. Alors ici, il emploie deux termes. Machashava ve'ahirur. Un point très important, ce qu'il va expliquer ici. C'est quoi la réflexion? Dans la tête de beaucoup de gens, la réflexion, c'est uniquement quand ils vont réfléchir à ce qu'ils doivent dire. Écoutez bien ce que je viens de dire, c'est très important. Dans la tête de beaucoup de gens, ils ne réfléchissent pas. Tout ce qu'ils font, c'est que de l'action. Et les seules fois où ils utilisent leur cerveau, c'est quand ils doivent réfléchir aux mots qui doivent sortir de leur bouche. Là, ils vont réfléchir. Mais si tu lui demandes, oublie les mots que tu vas dire, oublie les autres, pense à toi maintenant. Pense à toi, où tu es, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce qui arrive avec toi, etc. On peut avoir des gens comme ça, pendant des années, ils n'ont jamais pensé à eux. À part le fait qu'ils s'énervent parce qu'on l'a embêté. Je parle, pense à toi. Fais un bilan, comment tu vas, où ça avance. Bien, pense à un Dvar Torah. Arrête-toi, regarde un Dvar Torah et réfléchis à un Dvar Torah. Sans se dire, je vais en parler à quelqu'un d'autre, comment je veux parler à quelqu'un d'autre. Eh ben, ça, c'est la qualité principale des hommes. La qualité principale des hommes, c'est quoi? C'est qu'on a la force d'avoir la machashava, la pensée, mais la pensée pas seulement pour réfléchir comment je vais parler aux autres. La pensée pour moi, pour réfléchir à quelque chose pour moi. C'est-à-dire être là, réfléchir à un Dvar Torah, réfléchir à quelque chose, sans vouloir le transmettre aux autres. Ça, c'est la qualité des hommes. Et si on le fait pas, on passe à côté quelque chose de très important. Ça, c'est la remise en question, etc. Si on fait pas ça, encore une fois, on arrivera en haut, on ne reprochera pas, on ira au Gan Eden, pas de problème. C'est pas la question. Oui. La question, c'est que tu passes à côté de ta vocation. On prend Serge. Bah oui, le bonhomme, il a une Ferrari, il roule à 5 km/h. C'est un péché.
C'est possible. Hein,
c'est possible. D'accord. C'est dommage.
Oui, il a une Ferrari.
Mais il a une Ferrari. Ah, parce qu'il a mis une Ferrari, ça, je pense ça tout de suite.
Non, mais il a le parapluie.
C'est péché, tu le vois comme ça. Non, toute sa vie, le bonhomme, il a jamais appuyé, tu vois. Toujours à la première, il a jamais passé à la deuxième. Première. C'est déjà pas mal, la première de Ferrari. Elle monte à combien, Serge? Hein? Bon. Mais il a jamais passé à la deuxième. Il a jamais pire cherché qu'il y a une deuxième. Il cherche pas. Vas-y, première, reste comme ça. On lui dit, c'est dommage. C'est la même chose. C'est ce qui t'explique aujourd'hui. Tu dis, mais attends, Dieu t'a donné un cerveau pour réfléchir à la Torah. Alors, si vous voulez, on va essayer de développer ce qu'il dit ici parce que c'est très important. Je donne un exemple. On peut par exemple aller à des cours de Torah qui sont des cours de Torah qui nous paraissent faciles. D'accord? Sans chercher la complication. Ah, je dis, viens, on va étudier un peu la Gemara, le Tanya, le Zohar. Ah, laisse tomber, ne prends pas la tête. Moi j'ai des petits cours de Halakha comme ci, comme ça, je comprends, ne prends pas la tête. C'est pas tranquille. Il a fait la mise à étudier la Torah. C'est très très, très bien, quoi, la cavote. Il a fait la mise à étudier la Torah. Mais il y a une mitzvah de Riyun. C'est quoi un Iyun? Iyun, c'est approfondir. Et ça, c'est relatif à chacun. C'est-à-dire, celui qui sait approfondir au niveau 50, sa mitzvah, c'est d'aller à 55. Celui qui sait approfondir au niveau 0, sa mitzvah, c'est d'aller à 5, etc. Et ça, c'est une mitzvah. On a la mitzvah, non seulement d'étudier la Torah, mais ça, tu peux le faire en étudiant des choses simples. Tu peux prendre le Aleph Bet, et ça s'appelle étudier. Mais après, il y a une mitzvah d'utiliser mon cerveau. Il faut que je sente que ça force à un moment. Il faut que je sente que, à un moment, je sens que c'est dur.
Tu dis par là qu'il faut se casser la
tête. Moi, je peux vous dire que, quand j'étudie la semaine, d'accord? S'il y a des fois, ça arrive plusieurs jours que je sens pas que mon cerveau, il a buté sur quelque chose, ça me dérange.
Ah bon?
Ça me dérange. Tu vas dire, mais pourquoi? Au contraire. Sois content que t'as tout compris. Non, pas du tout. Parce que si t'as tout compris, c'est que t'as rien compris. Si tu crois que t'as tout compris, c'est qu'en vérité, t'es arrivé à un stade où tu cherches plus. Donc, c'est des choses déjà acquises. Quand on demande d'étudier la Torah, on te demande de chercher la complication. Donc quand vous venez à un cours de Torah et que vous sentez des fois qu'il y a des notions qui vous dépassent,
oui,
c'est bien.
Ça arrive.
C'est bien, c'est une bonne chose. D'accord? Non mais c'est sérieux. C'est sérieux. Il faut privilégier les cours comme ça. Quand vous allez à des cours dans lesquels vous sentez que, bon, vous arrivez à capter un peu, mais vous sentez que des fois vous êtes largué ou des fois c'est difficile à accrocher, c'est bien, ça veut dire qu'il y a du iyun, c'est-à-dire que votre cerveau travaille. C'est pas juste vous êtes venu machinalement, vous êtes venu bêtement. C'est ce qu'il dit ici. Machashava ve'ahir ur. La pensée et la réflexion. C'est une mitzvah de penser et de réfléchir à la Torah. Ça, c'est la phase 2. Donc, bedivrei Torah chez Moach, vekoach adibur, bedivrei Torah chez Bepé. Ainsi que, lorsqu'on va utiliser koach adibur, la force de la parole, bedivrei Torah chez Bepé, par des paroles de Torah. Vous savez, une personne qui va parler. Pour parler, il faut réfléchir. Et quand je vais réfléchir aux mots que je vais utiliser, etc. Vous savez, des gens qui préparent des discours, pour une minute de discours, ils peuvent vous passer une heure de réflexion. Chaque mot était pesé, chaque mot était calculé. Là, on peut dire que c'est pas quelqu'un qui juste, il se laisse aller, ça veut dire qu'il va dans une situation et il se laisse, ce qui sort de sa bouche, ça sort. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé Médaber, ça veut pas dire seulement qu'on sait parler. Ça veut dire qu'on sait comment parler. Donc là, c'est encore un deuxième point. Vous voyez, la particularité des hommes, c'est qu'on sait réfléchir et que même quand on parle, on n'est pas les seuls à parler. Les animaux, ils parlent aussi à leur manière. Mais seulement notre particularité, c'est qu'on sait réfléchir avant de parler. Et donc, encore une fois, l'importance de la réflexion. Maintenant, il va expliquer autre chose encore aujourd'hui. C'est que, quand je réfléchis à quelque chose, j'intègre la chose. Je vais vous donner un exemple. Imaginez par exemple quelqu'un qui, depuis qu'il est né, jusqu'à l'âge de 20 ans, il a toujours eu une idéologie de gauche. C'est quelqu'un de gauche. C'est-à-dire toujours, il est attiré par exemple politique de gauche, par exemple de gauche. Bon, pas de problème, c'est son approche, c'est son problème, d'accord? Et maintenant, il commence progressivement à fréquenter des gens qui sont de droite. Et il entend le discours de ces gens. Pas seulement qu'il voit leurs actions, il entend le discours de ces gens. Et il entend, et ces gens, ils lui parlent. C'est expliqué en chassidout que lorsqu'on réfléchit à quelque chose, à force de réfléchir à cette chose-là, on finit par devenir ce à quoi on réfléchit. Ça veut dire que la différence qu'il y a entre l'action et la réflexion, et là j'arrive au point, c'est que l'action n'a pas forcément un impact profond sur quelque chose. Exemple, je prends ma main, je mets la tzedaka, je prends la même main, je fais une bêtise, ma main n'a pas changé. Par contre, je prends mon cerveau, je mets une bêtise dans la tête, mon cerveau est devenu mauvais. Il a véhiculé du mal et donc il est devenu mauvais parce que le cerveau il garde ces informations. Je prends mon cerveau, je véhicule une mitzvah, je véhicule un Dvar Torah. Qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau est devenu bon. Pourquoi il explique ça ici? Pour expliquer la différence fondamentale qu'il y a entre la Torah et les mitzvot. C'est que autant les mitzvot sont très importantes, mais les mitzvot ils ont un impact passager. Je fais la mitzvah, ça a un impact passager sur mon corps. Je finis la mitzvah, je fais une avéra, hop, c'est fini, j'ai zappé. Alors que quand je réfléchis à quelque chose, une réflexion a un impact durable. Et ça c'est très important, parce que quand vous avez par exemple les enfants qui sont à l'école, et que des fois on leur demande de se casser la tête pour apprendre du Chumash ou de la Gemara, des trucs comme ça, et la vérité ça leur prend la tête des fois. En tant que parent, tu dis à quoi ça sert? Ah oui, tu dis à quoi ça sert? Tu dis, proche, je le prends la tête. Après, tu le casses les pieds. Des fois, des parents, ils me racontent. Ils disent, voilà, il y a à l'école, ils ont pris la Mishnah, etc. Ils disent, mais ça lui prend la tête. Le gosse, il attend une chose, c'est qu'il ferme son livre et qu'il va jouer à je sais pas quoi. Alors, à quoi ça sert? C'est quoi la réponse? La réponse, c'est que quand une personne a réfléchi à quelque chose, ça reste dans sa tête. Et moi, j'ai vu des exemples, j'en ai vu très souvent. Des fois, je vais voir des gens comme ça, qui sont pas religieux du tout. Mais que dans leur jeunesse, c'était religieux. Ils ont fréquenté les écoles juives, etc. Et je vais les voir. Je vais venir mettre les filines, etc. Tout d'un coup, tiens, ah, je me rappelle quand j'étais jeune, on avait enseigné ça. Il te sort un truc de Gemara. Il te sort un truc, je dis, mais d'où il sort celui-là? Je dis, mais c'est quand vous l'avez appris? Il dit, ah, c'est quand j'étais à l'école.
Ah, c'est resté donc.
Oui, mais je vous dis très fréquent, c'est très souvent, hein. Il te sort un truc comme ça, mais un truc que t'es épaté, quoi. Tu te dis, mais attends, c'est pas possible, il a étudié tout de suite, là, comment c'est possible? Ça veut dire que, au moment où il a étudié, il s'est pas rendu compte que c'est rentré. Et peut-être même ça lui prenait la tête à ce moment-là. Mais c'est rentré. Une parole de Torah, c'est quelque chose qui rentre et qui part jamais. Ça, c'est une qualité qu'on a dans la Torah qu'on appelle la mitzvot. Une mitzvah, bon, ça a un impact, mais l'impact, il est passager. Après, c'est sûr que c'est très important, c'est un mérite, etc. Mais l'impact sur mon corps est passager. Alors que l'étude de la Torah, ça a un impact qui est ad vitam aeternam. Voilà pourquoi. Surtout quand on y a réfléchi. Plus on a utilisé sa tête, et plus ça restera dans la tête. Moins on a utilisé la tête, et plus ça a été utilisé machinalement. Dans ce cas-là, ben, c'est comme une mitzvah, ça veut dire que l'impact ne tient pas longtemps. Moi, je peux vous dire, quand on est à la yeshiva, par exemple, quand on est à la yeshiva, le programme, il commence à 7h du matin. Et le programme, officiellement, il termine à 22h. Maintenant, on ne va pas dormir avant minuit minimum. C'est-à-dire que par jour, tu as minimum, hein, je sais pas, entre 8 à 12 heures d'études, minimum. Ça, c'est minimum, ça, je vous dis, à part les pauses et les repas, etc. Et c'est des fois, c'est-à-dire des fois, on peut passer par exemple des heures et des heures à se casser la tête sur trois lignes. Tu dis, mais à quoi ça sert? T'aurais pu aller demander directement au Rav qui est là, il t'aurait expliqué en deux lignes et c'est fini. Quand tu t'es cassé la tête sur quelque chose, la chose t'accompagne jusqu'à la fin de ta vie. Ça bouge pas. C'est des choses qui restent dans la tête. Okay. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi à la chose. Quand je réfléchis à quelque chose, ça me change et ça me travaille et donc ça me change profondément à l'intérieur. C'est ce qu'il dit ici.
Mais cette chose-là, ça veut dire que d'abord, j'aime cette chose-là. Si je ne l'aime pas, je ne vais même pas m'y intéresser.
Alors, c'est une bonne question.
Donc, ça veut dire que j'y adhère pas.
C'est une bonne question. C'est pour ça que tout à l'heure, je donnais l'exemple de gauche et de droite. Même si, quand j'y réfléchis, je crois que je n'y adhère pas, à force d'y réfléchir, je finis par y adhérer. Et ça, on l'a vu. Les gens, ils changent. Comment ils ont changé? Bah, à force de parler avec des gens qui pensaient autrement, bah, ils ont changé leur manière de voir les choses. Pourquoi? Parce que quand je réfléchis à quelque chose, la réflexion me change intérieurement. Ça change.
Mais est-ce que ce que tu viens de dire, est-ce que c'est...
C'est d'où l'expression, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Bon, alors.
Est-ce que c'est uniquement réservé aux juifs ou un goy qui veut étudier un texte de Torah, est-ce qu'il aura la même capacité?
Non, ça c'est à tout le monde.
C'est pour tout le monde.
Tout le monde, tout le monde. Okay. Seulement, il y a quand même quelque chose de particulier. Qu'il y a dans l'étude,
qu'il y a une particularité.
Alors justement, il y a quand même une particularité qu'il y a dans l'étude de la Torah, surtout dans l'étude de la partie cachée de la Torah, comme ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire pas de la partie Gemara, etc. C'est que le Zohar dit comme ça. Le Zohar dit une personne qui étudie la Torah, la partie dévoilée de la Torah, c'est-à-dire la Gemara, la Halakha, des choses qui sont plus halachiques, d'accord, accessibles. Il y a une possibilité qu'il étudie comme une science. Et qu'il étudie de manière désintéressée, et qu'il étudie en tant que théorie. Mais le Zohar, il dit très clairement, puisque cette semaine, c'est l'Agba Omer, il faut parler de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit comme ça, il dit que lorsqu'une personne étudie les secrets de la Torah, il peut pas rester insensible à ça. C'est sûr, ça le change. Il dit clairement comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour ça que chez Chabad, tout de suite, dès qu'on prend quelqu'un pour ramener à la Torah, tout de suite, on lui sort le Tania, les choses comme ça, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que quand tu étudies avec quelqu'un les profondeurs de la Torah, ça peut pas rester théorique. Il y aura forcément un impact concret. Et ça, je l'ai vu de mes yeux. Je peux témoigner que j'ai pas vu une personne qui est venue au cours de Tania qui a pas changé au moins un petit peu. C'est sûr. C'est-à-dire, tu sens que ça cogne quelque chose. C'est pas seulement une théorie, c'est pas seulement une science. Mais vous avez raison que cette notion, que la théorie, quand on réfléchit à quelque chose, eh ben, ça nous change. Bon, ça, on peut appliquer ça pour toutes les sciences. Mais dans la Torah, encore plus.
D'accord.
Oui, tu avais une question.
L'impact ne change pas, alors que tu as la Torah, le fait de réfléchir, ça change.
Alors attention, ça ne change pas de manière durable.
Pourtant, quand on fait une mitzvah avant de faire une mitzvah, on dit Hacher qui déchire nous, mais mitzvotav, et puis on sanctifie, donc il y a quelque chose qui se passe.
Évidemment, au moment où je fais la mitzvah, c'est très simple.
Chose qu'on ne dit pas pour la Torah.
J'ai compris. Dans le chapitre 5, il répond à la question très simple. Il dit comme ça. Il dit qu'on pourrait comparer ça à des vêtements et à la nourriture. Les mitzvahs sont comparés à des vêtements. Je peux avoir un super vêtement qui vaut plus cher que ce que je vais manger, mais le vêtement, je peux le mettre et l'enlever aussi rapidement. Je peux mettre un beau vêtement, c'est la mitzvah, je l'enlève, et je mets un autre vêtement, j'ai fini, j'ai fait une avéra. C'est un vêtement, je peux l'enlever, le remettre. Maintenant, le vêtement m'habille, c'est-à-dire quand tu me vois avec le vêtement, tu dis « Waouh, t'es classe !» Mais c'est un vêtement que je peux enlever très rapidement. Alors que la Torah est comparée à la nourriture. La nourriture, peut-être, ça t'habille pas comme le vêtement. C'est-à-dire que l'impact est plus difficile à voir. C'est pas comme un vêtement que tout de suite, tu vois, ça va couvrir la personne. Mais d'un autre côté, pour défaire une personne d'un aliment qu'il a mangé, c'est très compliqué. Parce qu'il l'a intégré. Ça, la différence entre la Torah et la mitzvot. La Torah, c'est comme un aliment, comme David Ameler dit dans Tehilim, « Vetoratra betor me'ai ». Le roi David dit dans Tehilim, il dit « Ta Torah se trouve dans mes intestins ». C'est-à-dire que la Torah, on l'ingère.
Il n'y a pas moyen d'intégrer le maas.
Non. Intégrer, non. On peut, voilà, ça te met dans une ambiance, etc. Mais l'ambiance, elle peut se changer avec une autre ambiance. C'est un vêtement.
Et pourtant, c'est quoi le lien de kavana dans le maasé, alors?
Alors justement, quand je mets une kavana dans mon maasé, j'essaye d'intégrer la mitzvah.
Ah, donc, c'est possible d'intégrer.
Bien sûr, avec la kavana.
Voilà.
Mais la mitzvah sèche, j'intègre pas. C'est très important de la faire. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est que ce soit fait, comme on a expliqué la semaine dernière, comme M. Benita a rappelé. Ce qui compte, c'est que ce soit fait parce qu'il y a un plan, il faut suivre, etc. Mais voilà. Ok, il y avait d'autres questions, oui.
Oui, non, il y a quelques mois, j'ai posé une question. Moi, je pense avoir compris, si tu veux, le principe, par exemple, de manger des poissons avec écailles nageoires. On sait qu'ils sont à la surface de l'eau, ils se nourrissent du plancton, ils ne se nourrissent pas de cadavres, ça bordel. Tu te dis, ça n'a rien à voir. C'était ça, mais ça n'a rien à voir, c'est autre chose.
Oui, ce que je t'avais dit, c'est que même les raisons qu'on trouve.
Oui.
C'est des raisons à un niveau. Mais après, quand on cherche encore plus profond, on comprend que les raisons qu'on nous a données ne sont pas suffisantes. Toutes les raisons qu'on nous donne ont des failles. Mais c'est pas grave, ça. Parce que le fait même que ton cerveau est occupé à chercher la chose, tu comprends, c'est bon d'être curieux, de réfléchir. Parce que le fait même de chercher, de rechercher, c'est ça ce qui fait ma particularité en tant qu'homme. Donc c'est bien de réfléchir. Il faut réfléchir.
Là, l'explication tient la route, tu vois ce que je veux dire. Il faut encore chercher plus loin, ça veut dire. Je sais qu'on mange cachère parce que c'est sans.
Vous avez dédié le cours pour la
réfouchement de Sulika Batalia. Oui, donc on dédie le cours pour la réfouchement de Sulika Batalia.
Merci.
Pardon. Oui.
Non, pardon. Alors, donc c'est-à-dire qu'il faut toujours chercher plus haut, en fait.
Toujours.
Là, l'explication.
Toujours c'est chercher à comprendre plus. Comprendre plus. Vous savez, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Ils font des études, ça veut dire qu'ils vont aller à l'école, ils vont être brillants, ils vont faire des études brillantes aussi. Et leur but, c'est quoi? C'est d'arriver à une vitesse de croisière, à l'âge de 30 ans par exemple, et après, ils mettent plein d'argent dans les poches, après c'est fini. Ça, c'est contraire à l'approche de la Torah. C'est-à-dire du style, on monte la fusée jusqu'à 30 ans, tu vois, et après, à 30 ans, une fois qu'on a la vitesse de croisière, après on se laisse aller, et maintenant les clients, ils viennent, on met l'argent dans la poche. C'est contraire à l'approche de la Torah. La Torah te dit non. La Torah te dit, plus tu avances, plus tu dois réfléchir. Et à 35 ans, tu dois pas être comme à 30 ans. Et à 40 ans, tu dois pas être comme à 35 ans. Il faut que tu sens que tu avances. Sinon, il y a un problème. Parce que l'homme a été créé pour réfléchir. Et l'homme a été créé pour se fatiguer. Adam, l'eramal, yulad. L'homme a été créé pour se fatiguer. Par quoi un homme se fatigue? Il se fatigue avec ses mains. Mais il se fatigue d'abord par la réflexion. Vous savez que la fatigue de la réflexion, et c'est confirmé par les scientifiques aujourd'hui,
c'est que
la fatigue de la réflexion, ça fatigue encore plus que la fatigue physique.
C'est clair.
Et ça, je peux vous confirmer, ça. Toute personne qui s'est déjà cassé la tête sur un projet ou sur quelque chose, il sait que ça fatigue beaucoup plus que le physique. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le physique? Dans le physique, je fatigue seulement un membre. Le membre, il se repose, c'est terminé. Mais quand le cerveau, il est pris, c'est le corps entier qui est pris. Alors même si mes membres n'ont pas bougé, mais on peut se sentir lessivé après avoir travaillé avec son cerveau. On se sent lessivé. Parce que la réflexion, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Et ça, c'est bien.
Ça puise.
Là, ça prouve qu'on avance, ça prouve qu'on réfléchit, donc on avance, donc on utilise sa qualité en tant qu'homme. Alors, dans les mots. J'ai développé pas mal à l'oral, maintenant on va avancer un peu dans les mots. Donc, Shehem, Levushim, Apnimiim, Shel Nefesh, Elokit. Donc, la réflexion, c'est ce qu'on appelle le vêtement intérieur de l'âme divine. C'est-à-dire quoi le vêtement intérieur, comme on a expliqué, ça veut dire que quand je réfléchis à quelque chose, je l'intègre. Alors que quand je fais une mitzvah, la mitzvah m'entoure, mais je ne l'intègre pas. Vechol sheken, la plus forte raison. Nefesh elokit atzvam loubeshet baem. La plus forte raison, quand l'âme divine est en service, parce qu'évidemment, quand je fais une mitzvah, mon âme divine est en service pour étudier. Kula miyuchadim mamash biyichud gemur beratzon elyon velo merkava levad. D'accord. Alors, voilà ce qu'il dit. Il dit, par rapport à ce qu'on a expliqué la semaine dernière, M. Benita, l'importance d'être soumis à Kadosh Baruch Hu, etc. Vous avez des gens qui sont extrêmement soumis à Kadosh Baruch Hu. Ils sont tellement soumis à Kadosh Baruch Hu qu'ils sont comme étaient les patriarches qui étaient une Merkava. C'est quoi Merkava? C'est pas comme le char. C'est quoi Merkava? Merkava, c'est un char. Le Zohar, il dit comme ça. Le Zohar, il dit que les Avot, les patriarches, ils étaient tellement soumis à Kadosh Baruch Hu qu'ils étaient soumis comme un char. C'est quoi un char? Prenez votre voiture, par exemple. On avait donné plusieurs fois cet exemple. Je prends ma voiture. Je tourne le volant. Les roues, elles tournent. D'accord, normalement. Est-ce que maintenant la roue, elle s'est posée la question, est-ce que je tourne ou pas? Ah non, quand j'ai tourné le volant, la roue, elle a tourné, c'est automatique. Ça veut dire que les Avot, ils étaient arrivés à un niveau, les patriarches étaient arrivés à un niveau, que tellement ils étaient annulés, tellement ils étaient soumis à Kadosh Baruch Hu, que accomplir la volonté de Dieu, pour eux, c'est presque un automatisme. Donc pour nous, quand on entend ça, on dit, waouh, c'est extraordinaire. Et bien, vous savez ce qu'il dit à Admor HaZaken? Admor HaZaken, ils disent, ça, même les Avot, les patriarches, ils n'arrivent pas au niveau d'une personne qui a compris ce qu'il fait.
Ah, ouais. Ça, là.
Eh ben oui. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire, alors attendez, parce qu'il n'y a pas la réflexion. Et je vais vous dire quelque chose. On voit par exemple Moshe Rabbeinu. On dit que Moshe Rabbeinu, Dieu lui a donné une qualité qu'il n'a pas donnée au patriarche. C'est que Moshe Rabbeinu, il cherchait à tout comprendre. Et quand il ne comprend pas, il bloque. Il dit non, je veux comprendre. Et on dit que quand Moshe Rabbeinu, Dieu l'a envoyé pour aller libérer le peuple. Il est parti pour aller libérer le peuple. Et il voit que, il va annoncer à Pharaon, il lui dit, voilà, je viens de la part de Dieu, il faut que tu libères les peuples. Comment Pharaon réagit? Qu'est-ce qu'il lui dit Pharaon? Il lui dit, mais pas du tout, non seulement qu'on va pas les libérer, mais au contraire, on va les faire souffrir. Comment il réagit Pharaon? Donc Pharaon, il dit, on va les faire souffrir. Moshe Rabbeinu, quand il voit ça, il comprend pas. Il revient voir Akadosh Baruch Hu à la fin de la paracha Shemot. Il lui dit, mais je comprends pas. Tu m'as demandé de partir pour les libérer, mais depuis que je suis venu, ça s'est empiré. Ah, ça marche pas. Il a le cran de parler comme ça à Dieu. Et Dieu lui parle à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il lui dit, Dieu, à Moshe Rabbeinu? Il lui dit, oui, tu sais, les patriarches, ils sont jamais pleins. Toi, tu te plains. Pourquoi il lui dit ça, Dieu, à Moshe Rabbeinu? En Chassidut, on explique comme ça. Parce qu'en vérité, les patriarches, ils se sont jamais pleins parce que les patriarches ont appris à servir à Kadosh Baruch Hu seulement par la soumission. Seulement en mode mitzvah. Ça veut dire soumission, comme un membre qui fait ce que le cerveau lui demande. On pose pas de questions, c'est un automatisme. C'est plus qu'un membre, c'est un char. Mais Moshe Rabbeinu, Dieu lui a donné une nouvelle qualité et que nous, on a hérité de Moshe Rabbeinu. C'est qu'à partir de Moshe Rabbeinu, on cherche à comprendre et on veut comprendre. Et ce qu'il dit ici, l'Admor HaZaken, en deux lignes, mais il dit que lorsqu'on fait une mitzvah et qu'on se casse la tête pour comprendre la mitzvah, à ce moment-là, on est à un niveau plus élevé que les patriarches. Parce que eux, les patriarches, ne cherchaient pas à comprendre. Parce qu'ils n'étaient pas conçus pour chercher à comprendre.
C'était évident.
Mais moi qui cherche à comprendre et qui me casse la tête, c'est très difficile parce qu'à la limite, c'est facile de dire, j'éteins mon cerveau, je fais machinalement. C'est facile. C'est la soumission. Voilà. L'avdil Daesh. Ah oui, ils ont éteint leur cerveau. Vous savez, il y a des gens, ils éteignent leur cerveau. Il y a pas, le cerveau ne fonctionne pas. Ils ne voient plus rien. D'accord? Les Avdi.
Oui,
mais bien sûr qu'ils en ont tout à main, un cerveau. Mais on leur a éteint leur cerveau. D'accord? Les Avdi.
Et les patriotes.
C'est un challenge beaucoup plus grand de garder son cerveau, de réfléchir, et avec son cerveau, se casser la tête pour essayer de comprendre où est Dieu, pour essayer de comprendre comment je vais servir à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est un niveau que les patriarches avaient très très peu, parce que c'est pas ce qu'on leur demandait. Ça a commencé à partir de Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu, c'est de lui qu'on a hérité ça, d'ordera, la capacité de réflexion et la capacité de chercher. Et donc ça c'est le thème d'aujourd'hui. De la même manière que dans l'histoire juive, d'abord on a eu les patriarches qui ont d'abord la soumission, et après on a eu Moïse qui nous a amené la réflexion. De la même manière, Quand je suis dans ma démarche de Teshuvah, d'abord je suis dans la première phase comme les patriarches, ça veut dire j'ai la soumission et j'écoute. Mais après il faut passer à la phase B. C'est quoi la phase B? Je dois chercher à comprendre. Je dois me casser la tête. Il faut que je sente que ça bloque. Quand ça bloque, c'est bon. Ça veut dire s'il y a quelque chose. Si je sens que c'est flûte, c'est que c'est pas bon.
Mais
c'est trop facile de prendre des choses qui font le consensus. Il faut que dans ma tête je sente qu'il y a un blocage.
Et si on prend Abraham Avinu,
oui.
il avait une chorma, parce qu'il s'est dit, c'est pas normal tout ça, il y a quelque chose.
Il a eu une réflexion, mais à un moment, il a éteint son cerveau. À un moment, il arrive à la conclusion que Dieu est Dieu, et après c'est fini, il servait Dieu par le cœur.
Il a négocié avec D'accord. Dieu aussi, je sais pas.
Bien sûr, il a négocié, mais ça veut dire que sa manière de servir à Kadosh Baruch Hu n'était plus par la réflexion.
Alors,
il avait une relation de soumission comme le Zohar dit, comme un serviteur devant son maître. Qu'à un moment, le serviteur au début fait un peu de résistance. Après, il sait, ce que le maître a dit, c'est ce qu'il faut faire. Alors,
il s'est soumis.
Nous, ce qu'on nous demande, c'est d'être encore plus que ça. C'est d'être pas seulement comme un serviteur devant son maître, pour reprendre un exemple du Zohar, un autre exemple du Zohar, mais pour être comme un fils devant son père. Vous savez, c'est quoi la différence entre un serviteur devant son maître et un fils devant son père? Les deux doivent écouter leur maître. Le fils doit écouter son père. Et le maître, il doit écouter, enfin, et le serviteur doit écouter son maître. Mais c'est quoi la différence? C'est que le serviteur, à un moment, il éteint son cerveau. Ça veut dire que dans sa tête, ce que le maître dit, c'est ce qu'on doit faire. Mais le fils, il éteint pas son cerveau. Il va écouter ce que son père va dire, mais il réfléchit. Et ça va le démanger à chaque fois de dire, mais papa, pourquoi on doit faire ça? Alors, des fois, il va le demander, des fois, il demandera pas, mais ça le démange. Donc, c'est une relation qui est complètement différente. Si vous voulez, là, maintenant, depuis Moshe Rabbeinu, on est passé du mode serviteur au mode fils. Être fils d'Akadosh Baruch Hu, c'est un niveau qui est beaucoup, beaucoup plus élevé, comme on dit dans les tuiles de Rosh Hashanah, im kebanim, im karavadim. On a les deux modes. On peut être soit comme des enfants, soit comme des serviteurs. Il y a les deux. Le serviteur, il est soumis, c'est sa qualité. L'enfant, il a une qualité, c'est que il est peut-être moins soumis que le serviteur, mais l'enfant, il veut le bien de son père. Donc il dit, papa, je comprends pas, c'est pas bon ça. Pas parce que l'enfant, il a envie d'être égoïste, parce que l'enfant, il comprend pas. Il dit, papa, pour ton bien, c'est pas bon ça. C'est pas qu'il dit, bon, de toute façon, je m'en fiche, j'ai pas mon affaire, ça casse la figure. Non. Un enfant, c'est quelqu'un qui se mouille. C'est quelqu'un qui veut comprendre, qui casse la tête. Et quand il comprend pas, il le dit, il le fait savoir.
Et d'un côté, il y a la crainte, et de l'autre côté, il y a l'amour.
Oui. Mais ça veut dire que, il réfléchit à ce qu'il fait. L'enfant, il réfléchit à ce qu'il fait. La relation qu'un enfant il a avec son père, c'est une relation qui est complètement réfléchie.
Mais oui, mais il n'y a pas de crainte.
Ça nous arrive à tous, par exemple, qu'on ne comprend pas des choses que nos parents font. Surtout quand on est jeune, etc. On ne comprend pas des choses que nos parents font. Et c'est bien de se poser la question. C'est normal. Parce qu'on n'est pas des serviteurs, on est des enfants. Et un enfant, il doit se poser des questions. Il doit écouter. Mais il doit se poser. Il faut que dans son cerveau, il sente qu'il y a des blocages. C'est bien s'il y a un blocage. C'est très bien quand il y a un blocage. D'accord? Alors, il y a des questions?
Mais on peut se soumettre à quelqu'un. Dès lors qu'on a compris tout ce qu'il y avait à comprendre, parce que c'était clair, c'était évident, et on l'a intégré tel quel.
Oui, mais après, bon, après il faut avancer.
On a mis en stand-by.
Eh ben non, il faut avancer. Quand on avance, ce qu'on croyait avoir compris, quand on avance, ce qu'on croyait avoir compris, on comprend qu'on l'a pas compris. Si je suis arrivé à l'âge de 20 ans et j'ai compris, et après toute ma vie j'ai compris, et après je bouge pas, c'est que j'ai rien compris. Il faut que j'avance d'un niveau et que je comprenne qu'en vérité ce que je croyais avoir compris, je l'ai pas compris. Je donne un exemple, regardez. Par exemple, quand j'étais au Cheder, voilà, maintenant je suis avec mon fils, on apprend, voilà, on a appris tout à l'heure le Chumash. Bon, on a fait le Chumash, d'accord, la paracha. Voilà, sur la paracha, ils ont fait la paracha. Quand j'étais au Cheder, quand j'avais l'âge 6 ans, 7 ans, on a appris le Chumash. Quand on est arrivé à l'âge de 7 ans, on a appris le Chumash avec Rashi. Je me rappelle.
6 ans,
7 ans. 7 ans, oui. Le professeur, il nous expliquait, on comprenait ce qu'il nous racontait, le professeur. D'accord? Et maintenant, je relis Rashi, je dis, mais je comprends pas ce que Rashi dit. Il dit, mais je comprends pas. Quand t'avais 7 ans, 8 ans, tu l'as étudié sur Rashi, tu l'as compris. Alors, pourquoi d'un coup tu comprends pas? Ben, c'est très simple. Parce que, non, c'est pas que j'ai oublié. C'est que, à 7 ans, je l'ai compris comme un enfant de 7 ans le comprend. Mais après, comme mon cerveau a évolué, et mes connaissances ont aussi, bah, au prochain, évolué avec le temps, parce qu'on grandit. Alors, quand les connaissances ont évolué, donc ce que tu croyais avoir compris, tu comprends que tu l'as pas compris. Et c'est bien que c'est comme ça. Sinon, celui qui va rester au niveau de 7 ans va dire, j'ai compris. Ça y est, je connais déjà. C'est bon, je connais. Mais t'as rien compris. Tu sais, souvent, des fois, il y a des gens, tu as un cours de droit, tu dis, ouais, c'est bon, je connais déjà. Mais non. Vous verrez que les vraies personnes intelligentes, c'est les gens que, même quand ils prennent des choses qu'ils connaissent déjà, ils n'ont pas peur de le revoir et de se dire, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas compris. Et c'est ça ce qui fait qu'ils vont comprendre des choses. C'est ça, les chercheurs.
Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien.
Tout ce que je sais,
c'est que je ne sais rien.
Qui a dit ça?
Socrate.
Razak. Alors, je vais vous citer une autre référence. Maïmonide. Tachlit ayedia chez l'Oneda. Le but du savoir, c'est de ne pas savoir.
C'est ça.
Non, c'est ça. Parce que, justement, j'arrive à un niveau que je comprends.
Mais tu sais que tu sauras jamais.
Non, pas du tout. Parce que j'arrive à une compréhension à chaque fois à un niveau. Mais après, quand je monte de niveau, je comprends qu'en vérité, ce que je croyais avoir compris, j'ai pas parfaitement compris. Et après, j'arrive à le comprendre. Et après, je monte, et c'est comme ça.
Ça se termine jamais.
Tu comprends? C'est-à-dire, plus on avance, plus on va vers l'inconnu. On cherche des choses qu'on n'a pas encore compris. Des choses qu'on croyait avoir comprises, et que quand on repasse une couche, on se dit, finalement, je l'ai pas compris. On n'a pas peur de repasser chaque année devant la même paracha.
Non, mais puisque je sais que de toutes les façons, je ne comprendrai pas l'in fine, pourquoi je...
Parce que, quand je cherche à comprendre quelque chose, je l'intègre.
C'est toujours.
Voilà. Non, il faut, c'est très important parce que les actions.
Tu as raison. Non, non, il faut que je fasse, il faut que je, j'aspire à faire.
Tu veux dire, par rapport à Abraham et Yaakov,
les actions.
Les actions. Évidemment, oui, il faut chercher à avoir la soumission devant Kadosh Baruch Hu.
Non, tu dis que depuis Moshe Rabbeinu,
maintenant il y a les, il y a phase A, phase B. Dans ma vie aussi, il y a phase A et phase B. Il y a des moments dans la vie dans lesquels je dois avoir la soumission comme les patriarches ont eu. Il y a des moments dans lesquels je dois me remettre en question. Il faut les deux en même temps. Torah, mitzvot et Torah.
Ce que je demande, c'est d'aspirer à être comme les avots. Pas être comme Moshe Rabbeinu, ni à être comme...
Par rapport aux actions. Ça veut dire quand je fais une mitzvah, je dois pas faire ce bêtement. C'est quand je fais une mitzvah... Encore une fois, il y a mitzvot et Torah. Quand je fais une mitzvah, je dois les faire comme le patriarche. C'est-à-dire je dois les faire presque machinalement. Mais d'un autre côté, quand j'étudie la Torah, qui est l'explication des mitzvot, là, je dois me casser la tête. Et je dois avoir les deux en même temps, ça, la complexité. Mais c'est possible, on le fait tous les jours. Il faut se casser la tête.
Mais par contre, il ne faut pas faire que ce qu'on comprend.
Évidemment,
non.
C'est pas ce qu'on a dit.
Il faut tout faire.
Il faut tout faire, mais il faut se casser la tête. Il faut se casser la tête. C'est pour ça, vous voyez, je vous donne un exemple. Par exemple, on est ici rassemblés autour d'une table pour un cours de Tania. D'accord ? Quelqu'un qui vient au cours de Tania, bon, peut-être au début, il est venu parce qu'on lui a dit que... Il y a des amis, il y a des biscuits, il y a des chips, etc. Bon. Et c'est aussi une bonne ambiance. Mais après un moment, moi je pense qu'une personne qui est venue, d'accord, ça fait déjà un mois, deux mois, trois mois qu'il vient à un cours de Tania. S'il vient à un cours de Tania, c'est pourquoi il vient à un cours de Tania? Parce qu'il se recherche. Parce qu'il a envie de comprendre. Donc vouloir comprendre, c'est très bien. C'est une très bonne chose. Il faut se casser la tête. Et après, même si à chaque fois il y a des choses qu'on ne comprend pas, c'est pas grave de pas comprendre. Ce qui compte, c'est de chercher. Et ce que j'ai pas compris aujourd'hui, je le comprendrai demain. Mais au moins, ce qui compte, c'est que j'ai cherché à comprendre. Chercher à comprendre, c'est extraordinaire. D'accord ? Parce que quand tu cherches à comprendre, un jour, tu vas décrocher. Mais quand tu cherches pas, bah, tu vas jamais décrocher. Donc, ne pas être comme un animal, être comme un homme, utiliser son cerveau pour réfléchir.
Celui qui croit tout savoir ne sait pas poser toutes les questions.
Évidemment, oui. Ah, mais je vais vous dire, j'en rencontre souvent des gens comme ça. Des gens qui ont appris une halakha comme ça, de bas niveau, ce que j'appelle de bas niveau, ça veut dire qu'ils ont appris la halakha brute. Et après, dès que tu commences à le pas, tu dis, ouais, je connais. Tu peux même pas parler avec lui. Je connais. Ok, tu connais ce que tu veux faire. Il y en a qui dit je connais. Il a coupé court que tu vas faire. Tu peux pas discuter avec un comme ça. C'est pas possible. Alors que lui, en vérité, il a rien compris. Pour comprendre, il faut admettre qu'il y a peut-être des choses que j'ai pas compris. Et quand tu admets ça, c'est là que tu peux aller plus loin et encore plus loin et encore plus loin. Et ça, c'est un travail d'une vie. C'est un travail qui s'arrête jamais.
Il faut être humble.
Vous savez, la Gemara dit comme ça. C'est une Mishnah en vérité. Dans le traité PA. Elle dit Zikne Amea Aretz. Les anciens, les vieux, chez les améares, chez les ignorants, Kolzman chez Maskinim, Data Mitaref Ataleem. Plus ils vieillissent et plus ils perdent la tête. Parce que comment ils fonctionnent? Comment on a expliqué? Quand ils sont jeunes, ils font travailler leur tête pour gagner de l'argent. Et après, ils arrêtent de réfléchir. Ils se reposent sur leur laurier, donc plus ils vieillissent, plus ils deviennent bêtes. Mais Zikte Talmid Echamim, les anciens, chez les Talmid Echamim, chez les sages, Kolzman chez Maskinim, tant qu'ils... Plus ils vieillissent, c'est plus data mitiachev atalien, mais plus leur esprit devient posé, leur esprit devient réfléchi. Pourquoi? Quelle est la différence? Parce que chez les talmid chachamim, on apprend à tout le temps utiliser son cerveau, même quand on connaît déjà. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, j'avais des rabbanim, je sais pas, ils avaient dû faire au moins une cinquantaine de fois le chasse. Et tu le vois, il est devant sa Gemara, il regarde sa Gemara comme ça, comme si c'est la première fois qu'il la regarde.
Au bout de 50 fois.
Mais oui, 50, il la connaît par cœur. Grosseur des mots par cœur. Il dit, tiens, va voir, va m'ouvrir cette gemara là-bas. Il te la sort par cœur, la gemara, avec Rashi Tosfot. Tu sors par cœur dans les mots. Je dis, mais ce bonhomme là, il va, vas-y, ferme ton livre. Qu'est-ce que tu fais? Et là, il se casse la tête. Qu'est-ce que tu te casses la tête? Tu connais tout. C'est ça la force. Ah oui, ben, il y a une étude qui a été faite. Bien sûr. Parce que vous savez que quand on utilise son cerveau, quand plus on utilise son cerveau, et moins il y a de risques d'Alzheimer. Il y a une étude qui a été prouvée, c'était prouvé. Ils ont fait un.
C'est confirmé ça.
Il y a une étude qui a été prouvée que les gens qui utilisent leur cerveau, qui font
des connexions entre les neurones, donc forcément,
ont beaucoup moins de risques d'Alzheimer. Voilà, c'est vraiment. Data mitéchevet à l'air. Je t'en dis ici.
Je fais une mitzvah. D'accord. Par exemple, je veux dire, je prends mon houlab, je le bouge. Le fait d'avoir fait la mitzvah, que je l'ai faite en comprenant ce que je fais ou que je l'ai faite sans comprendre,
je l'ai faite.
La mitzvah est faite.
Oui.
Ça a pas de différence, on va dire. Oui. Si on va dire si ça vaut 10, que je le fais en comprenant ou sans comprendre, j'ai eu mes 10 points.
Oui.
Alors.
Non. Oui, encore une fois, j'ai compris. Si tu veux, il faut se focaliser. Il y a deux points sur lesquels il faut se focaliser. Premier point sur lequel il faut se focaliser, c'est est-ce que j'ai accompli ma mission comme un soldat. Alors ça, quand j'ai fait la mitzvah, check, je l'ai faite. Mais après, en tant qu'homme, est-ce que j'ai vécu ma mitzvah? Est-ce que j'étais dedans?
C'est le ressenti.
Ça, c'est autre chose. On peut faire des mitzvot par routine sans les vivre.
En les comprenant, on les vit plus.
Eh bien, évidemment. Ouais. Quand tu comprends quelque chose, tu es dedans. Quand tu fais quelque chose machinalement, tu comprends rien.
Si un jour tu mets pas tes teft, il y a un manque, non? Tu ressens pas comme un manque? Tu te sens bien?
Je sais pas.
Non, mais. Je suppose, c'est pas la question que ça t'arrive.
Il y a 0 et 13 ans.
Bon, voilà, c'est pareil. C'est tout.
Je sais pas si c'est pas psychologique.
Ah, si.
C'est psychologique, je pense.
Non.
Je sais pas.
Je peux t'assurer que.
C'est sûr que ça a un impact, mais je sais pas si on est à un niveau de ressentir ça.
Moi, une fois, j'ai pas pu le mettre parce que j'étais pas saoulé. J'étais pas bien du tout.
Ouais. Pas rien du tout. Malgré les automatismes et tout ce que tu as évoqué jusque-là, il peut aussi y avoir un sentiment de satisfaction
oui.
aussi.
Un besoin. Mais c'est besoin de quoi?
De l'avoir fait.
Très bien. Très bien. Il donne cet exemple, Zohar. Il dit, c'est comme la satisfaction que le serviteur va avoir quand il sent qu'elle fait plaisir à son maître. Il sent que son maître a eu plaisir, il est content, il a kiffé.
Mais on est en train de dire.
Mais ça reste très très limité.
D'accord.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de réflexion. Un animal aussi. Un animal, tu sais, un chien.
Oui, il y a une satisfaction.
Quand il te rend service et qu'il sent qu'il t'a fait kiffer, il est content. Tu le vois, il est content, il jubile. C'est même un animal, il a ça. En quoi nous, on est des hommes?
Ça veut dire que cette satisfaction n'apporte rien de plus.
Hein, c'est? C'est vrai, bien sûr, c'est vrai. Tu vois pas, un animal, il y a une relation. Tu vois, des fois, il jubile. Il sent qu'il est content, il sent que t'es content. Alors quoi? La satisfaction.
Ça n'apporte rien de plus.
Si tu veux, ça ne met pas en valeur la faculté principale de l'homme qui est la réflexion.
D'accord.
Voilà. Il faut tout le temps se remettre en... Et ça, c'est un principe que vous devez appliquer partout. Chez vous à la maison, dans votre shalom bayit, dans vos affaires, tout le temps. On ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Parce que, au Hachem, après, on a une affaire qui tourne. Oui. Ah bon, ça tourne. Oui. Alors, il y a, comme ils disent les Américains, si c'est pas cassé, ne le casse pas. Ça, c'est contraire à la Torah, ça. Vous savez, les Américains, c'est comme ça. Ils disent, tant que si c'est pas cassé, ne touche pas, laisse-le tranquille, laisse-le tourner. D'accord? Non! Quand on étudie la Gemara, ça c'est vraiment le contraire de ce principe. Quand on étudie la Gemara, on t'amène une braïta, on t'amène une Mishnah. Elle fonctionne la Mishnah. Et pas qu'on attaque. T'as envie de dire, mais attends, elle était bien, ne la touche pas. Après on pose une question, après on répond. Après on re-attaque, après on répond. Tu dis, mais ça y est, arrête de poser, elle est bien comme ça. Non, on n'a pas peur. Ça me fait pas peur d'attaquer. Parce que on est là pour réfléchir, on est là pour questionner, on est là pour comprendre. Donc il faut constamment se remettre en question dans tout ce qu'on fait. Ça c'est notre faculté principale en tant qu'être humain, de se remettre en question et de se poser des questions. Et c'est comme ça qu'on avance. Après est-ce qu'on trouve des réponses? J'en sais rien. Le fait même de se poser des questions, c'est déjà un target, c'est déjà un but. Alors, je me rappelle une fois quand j'étais une fois chez un docteur, je m'ai posé la question. Il m'a dit, dans le Talmud on pose beaucoup de questions. Il m'a dit, quel est le but? C'est de poser des questions ou d'avoir des réponses?
Question.
D'accord. Eh ben non. Quand on étudie le Talmud, je vais vous dire, celui qui veut des réponses, c'est très simple. Tu peux prendre le Shulchan Aruch, c'est la conclusion du Talmud. En deux lignes de Shulchan Aruch, t'as conclu 10 pages de Gemara. Donc te prends pas la tête. Pourquoi tu vas rentrer dans 10 avis? De toutes les façons, la halakha est comme un seul avis. Et en plus, dans chacun de ces 10 avis, il y a eu 10 manières de les comprendre, mais que les 9 ont été repoussés. Va directement à la conclusion. Hop, c'est fini, t'as Shulchan Aruch. On n'est pas là pour trouver des réponses, parce que si tu veux trouver des réponses, les réponses, on les connaît déjà. Tu comprends? Des fois, par exemple, on étudie la Gemara, on se casse la tête pendant 3 pages, jusqu'à qu'à la fin, on te dit, ah bah finalement, il y a eu une erreur de version, donc on s'est basé sur une mauvaise base, donc toutes les 3 pages qu'on a fait, on les zappe. Alors tu vis ça, tu dis, bon, d'accord, ça, les premiers, ils se sont fait avoir, mais nous maintenant, on connaît la conclusion. Alors les imprimeurs, ils auraient pu zapper là, parce que de toute façon, c'est que c'est une erreur. Parce que le but, c'était pas la réponse, on la connaît déjà de toutes les façons. Et surtout quand tu as déjà fait la Maseret, le traité, tu connais déjà la conclusion.
Bien sûr.
Donc, tu ne travailles pas pour aller à la conclusion, travailles pour questionner. Pour quand on questionne...
On saura comment ça reviendra.
Il y a plus de réflexion.
Exactement.
C'est la mécanique.
Mais quand on s'habitue à regarder, d'accord, c'est comme, vous savez, je donne beaucoup d'exemples, parce que c'est l'exemple que je remets quand j'étais à la yeshiva. Comme une fois, un rabbin nous a donné un exemple comme ça. Il dit, imaginez par exemple qu'on prend une pièce d'art et on la montre à quelqu'un. On lui dit, vas-y, regarde cette pièce d'art. Bon, c'est pas une pièce d'art, ça, mais on lui dit, regarde cette pièce d'art, ça c'est mieux. Il la regarde, il dit, c'est bon, je l'ai vu. Tu l'as bien vu? Il dit, oui, je l'ai vu. Qu'est-ce que c'est? Bon, il dit, voilà, il y a un dessin, il y a ça. Ok. Puis maintenant, regarde-la encore une fois. Tu l'as vu déjà? Regarde-la encore une fois. Il la regarde. Et là, il découvre des nouveaux détails. Il les a pas vus. Tu l'as vu? Ça y est, je l'ai vu, ça y est, combien de fois je vais la voir? D'accord, pas de problème. Tu reviens demain. Regarde-la encore une fois. Mais je l'ai vu hier et avant-hier. Ça va me prendre la tête, tu me casses les pieds. Regarde encore une fois. Tu regardes encore une fois, tu dis, ah, j'avais pas vu ce petit détail-là. Et chaque fois que tu repasses, tu découvres des détails. Seulement, c'est quoi le problème? C'est que si dès le départ, la première fois, j'aurais dit, ouais, ça y est, je la connais. Ben, jamais t'aurais vu ces autres détails. Tu serais arrêté, première vue, tu dis, ça y est, je connais. Mais quand dans ta tête, quand on te l'a montré, t'as accepté de te dire, peut-être j'ai pas vu les détails, Eh ben, t'as repassé, t'as retrouvé les détails. Parce que j'ai eu le questionnement. Je suis arrivé devant le livre, j'ai dit, tiens, je me questionne. Qu'est-ce que j'ai pas encore vu ici? Je regarde, ah, ben, tiens, j'avais pas vu ça. Et chaque fois que tu te questionnes, tu trouveras des nouvelles choses. Tout le temps. La Gemara, elle dit, en bet amidrash blochidouche. Il n'existe pas une maison d'études sans nouveauté. Ça veut dire, même si tu étudies le même texte, pendant des millénaires, le même texte tous les jours, matin, midi et soir, chaque fois que tu repasseras, tu découvriras un nouveau détail. C'est impossible de pas découvrir un nouveau détail. Ça n'existe pas. Seulement, c'est quoi le problème? C'est que nous, on se lasse. Alors, quand tu te lasses, ton cerveau, il n'arrive plus à regarder. Mais tant que ton cerveau ne s'est pas lassé et qu'il admet qu'il doit chercher, tu peux trouver autant que tu veux. C'est ça, en vérité. C'est travailler sur l'humilité. En passant une petite parenthèse, vous savez, cette semaine, dans le Homer, la mida de cette semaine, parce que j'essaie de faire un rapport avec la mida de cette semaine, c'est Hod. Hod, c'est l'humilité. L'humilité. Quand on arrive à être humble, ça veut dire à admettre qu'on ne connaît pas. Quand on arrive à avoir la curiosité comme un enfant, redevenir des enfants. Vous savez, les enfants, ils sont curieux. Pourquoi ils sont curieux? Parce qu'ils ne connaissent pas. Et quand tu admets que tu ne connais pas, tout est à découvrir. Ben, imaginez que quand vous voyez un grand dans la Torah, quand vous voyez des géants dans la Torah, pour eux, regardez, dans leurs yeux, on le voit ça. Ils ont une curiosité comme des enfants. Parce que dans leur tête, tout est à apprendre. Et toi, quand tu vois ça, tu te dis, mais attends, c'est pas possible, il connaît tout, il veut tout apprendre. C'est ça?
Excusez-moi, je vais me permettre d'ouvrir une parenthèse qui a à voir sans savoir en rapport à ce que vous dites. Puisqu'on étudie systématiquement les mêmes textes, on revient tout le temps dessus. Effectivement, on rentre dans des réflexions, on casse des réflexions, on se propose des questions, on est tout le temps en perpétuel. Est-ce qu'il ne serait pas sous table ou est-ce que peut-être des choses se passent peut-être déjà en Israël ou dans les milieux autorisés? Est-ce que par rapport à l'évolution des sociétés, par exemple, sur le monde organ, sur les mères porteuses, sur les choses comme ça, est-ce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui à même de se casser la tête?
Mais évidemment,
à la halakha et l'évolution de la science. Est-ce qu'il serait souhaitable, il n'est pas souhaitable, il est parce qu'il est quasiment obligé, puisqu'on a affaire à des choses qui n'existaient pas il y a encore 20 ans ou 30 ans, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à se casser la tête?
Alors, non seulement qu'il y a des gens qui sont prêts à le faire, il y a des gens qui le font, ouais. Et je vais vous dire plus que ça, et c'est ça ce qui me marque le plus, c'est qu'il y a des gens qui le font, et des gens qui l'ont fait, et des gens qui sont arrivés à des conclusions. Mais comme on se casse la tête, ça ne nous dérange pas, et de temps en temps, tu as un grand rave qui va venir, et qui va remettre en question tout ce que les autres ont fait. Bon. Il va dire, eux, ils sont arrivés à telle conclusion, et moi, je suis pas d'accord. Pourquoi il a fait ce rave-là, ça? Vous croyez que c'est juste parce qu'il voulait un peu d'action, il a dit, tiens, lui, il a dit ça, moi, je veux le contredire? Non. C'est comme ça que c'est venu. D'où c'est venu? Pourquoi tu avais un rave qui a dit c'est cachère, hein, ou bien le contraire? Ouais. Et un autre rave qui va dire, il dit, attends, moi, je vais trouver un truc. Il s'est levé de bonne heure un matin, il dit, tiens, lui, il a dit ça, moi, je veux dire le contraire? Non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est qu'il a eu la curiosité de se dire, il a dit comme ça, mais je vais chercher. Peut-être je vais trouver des choses que lui il a pas vues. Et il cherche. Quand on cherche, on trouve.
Et qu'est-ce qu'on a trouvé par
là? Eh ben voilà. C'est-à-dire que sur chaque élément, vous allez avoir des marloquettes, des fois oui, des fois non. Ça veut dire que.
On parle de phénomènes récents, là.
Oui, bien sûr. Sur toutes les questions que vous posez.
De société,
dons d'organes, mort cérébrale, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que c'est des questions qui.
Euthanasie, pas euthanasie.
Euthanasie, etc. Oui, c'est des questions classiques.
Mais est-ce qu'il y a des réponses aujourd'hui?
Bien sûr qu'il y a des réponses.
Qui sont appliqués aujourd'hui en Israël ou...
Bien sûr, il y a des réponses, il y a même des marloquettes.
Non, mais en tout cas, c'est une discussion. Mais il n'y a pas de statut.
Non, mais il y a eu des décisions rabbiniques sur beaucoup de sujets.
Je ne sais pas, c'est une question.
Regarde, forcément, lorsque ce n'est pas une dictature, lorsque c'est une discussion, et qu'il y a deux personnes qui discutent, comme ils ont deux manières différentes de voir les choses, ça ne nous fait pas peur de dire qu'ils ne sont pas d'accord.
Mais
ça veut dire quand on étudie la Guémara, par exemple.
Moi, je ne sais pas ça. Ce que je veux dire, c'est que voilà.
Vous voulez que s'il fasse le consensus.
Vous avez le cerveau A, le cerveau B. Vous avez une problématique. Cerveau A, cerveau B. Vous avez le cerveau brillant. Pendant ce temps, il y a des gens qui se retrouvent dans des lits d'hôpitaux qui sont en mort cérébrale ou qui vont probablement mourir si on les débranche, si on ne les débranche pas. On peut sauver une vie en donnant un organe à quelqu'un qui est en train de mourir. Mais pendant qu'on réfléchit, parce que ça fait maintenant... Je dis ça parce que j'écoute à la radio le débat, j'écoute souvent des débats comme ça. Et on se retrouve aujourd'hui face à des choses où d'un côté, on peut sauver des vies, on va entre guillemets, on va prendre des pièces détachées d'un corps humain pour en mettre... Bon, on va démembrer un être qui est peut-être mort cérébralement pour le retirer des organes. Mais d'un autre côté...
On va sauver quelqu'un.
Je me dis, moi, dans ma religion... par exemple, je n'ai pas le droit de toucher à mon corps, quoi qu'il advienne, même pas un tatouage, rien du tout. Par contre, si j'étais en situation de mort et qu'on me greffe un rein ou un cœur, hein, je serais bien content de le recevoir. Donc toutes ces réflexions-là, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, il y a des choses qui ont été statuées, bloquées.
Bloquées, non. Statuées, oui. Bloquées, non. Moi, rien n'est bloqué.
Non,
par définition, rien n'est bloqué.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des cerveaux, des grands raves aujourd'hui qui disent voilà, par rapport à ça.
Je vous raconter, je comprends votre question.
Excusez-moi, j'ai fait ouvert une fenêtre.
Non, c'est pas un problème. Au contraire, c'est le but, réfléchir. J'étais témoin récemment, ça fait 5 ans. D'un cas qui s'est passé en Israël. Bon, je connais pas la personne, mais bon, je connais ses enfants, etc. Et c'est une personne qui est en Israël, un rave en Israël, qui est tombé malade. Il est tombé malade, il a besoin d'une greffe. Une greffe de rein, je crois que c'était. Enfin, un truc très, très compliqué à trouver, pour trouver une compatibilité, c'était une galère. Et finalement, la seule greffe qu'ils ont pu trouver en Israël, c'était une dame qui avait fait un malaise très cérébral très grave. Et que, d'après le docteur, c'était terminé. En l'espace de 48 heures, c'était terminé. Mais le problème, c'est que pour sauver la vie de ce Rav qui était tombé malade lui aussi, il fallait le faire dans les 24 heures. Et donc voilà, donc on avait un problème. C'est que d'un côté, on sait qu'on a un rein, ou je ne sais plus ce que c'est, en tout cas un membre vital, vraiment vital. Et d'un autre côté, on était bloqué. Alors donc, il y a eu un marathon de rabbanim, etc. et tout. Finalement, la famille de cette dame, qui avait donc une mort cérébrale, ils ont demandé à leur Rav, qui était un Rav Avnei Brak, qui est niftar récemment d'ailleurs, un grand Rav. Et le Rav, il a tranché que d'après lui, mort cérébrale, c'est pas appelé une mort.
C'est pas
appelé une mort. Donc on n'a pas le droit de prendre cet organe qui va achever cette femme. On n'a pas le droit de le prendre. D'un autre côté, il y avait l'autre famille qui disait, mais attendez, il y a des rabbins qui disent c'est permis, ça va sauver la vie. Résultat des courses, d'accord ? C'est que les deux sont morts. Ah oui. 4 jours après, les deux sont morts. La dame, elle est morte, et le Rav aussi, il est mort. Les deux sont morts. Alors, c'était une grande discussion après, entre les rabbanim. Parce que voilà, là, on a eu un cas concret, dans nos yeux. C'est-à-dire qu'il y avait les médecins qui disaient qu'on pouvait le sauver. Mais d'un autre côté, le Rav de la famille, il avait des preuves, halakhiques, des preuves très costauds, pour montrer que, halakhiquement, mort cérébrale n'est pas appelée mort. Donc, on n'a pas le droit d'achever cette femme. Parce que enlever un instant de vie à une personne, ça s'appelle le tuer. Et c'est très compliqué. Maintenant, je vais vous dire maintenant, quand ils vont arriver les deux après 120 ans en haut, on va poser la question à la famille de cette femme. On va lui dire, est-ce qu'ils ont été meurtriers ou est-ce qu'ils ont fait une mitzvah? Et c'est évident qu'ils ont fait une mitzvah, ils ont écouté ce que le Rav a dit. Et le Rav, lui, est-ce qu'il a été meurtrier ou est-ce qu'il a fait une mitzvah? Le Rav qui leur a dit de ne pas le donner. Ben moi, je vais vous dire, le Rav a fait une mitzvah aussi. Parce que le Rav, la Torah a demandé d'utiliser son cerveau pour comprendre. Et d'après la conclusion, c'est un géant, c'est pas n'importe qui.
Oui, j'imagine.
Je donne pas le nom parce que peu importe, ça change rien pour le débat. Mais le Rav, par rapport à la conclusion, par rapport à ce qu'il est arrivé, il est arrivé à une conclusion de Torah et d'après lui, il pouvait pas dire le contraire. Donc il a dit ce qu'il pensait. Et des cas comme ça, c'est très fréquent en Israël.
Et si demain ça se reproduit, on aura la même réflexion.
Bien sûr, bah oui. Parce que y a aujourd'hui encore, tu as une grande partie de rabbanim en Israël qui pense qu'une mort cérébrale n'est pas appelée une mort. C'est très difficile à trancher.
On dit qu'il sauve une vie, sauve l'humanité.
Mais on ne peut pas tuer pour sauver une vie.
Ouais.
Surtout qu'il y a eu des cas, des gens qui ont revécu après.
Il y a eu des cas.
Très très rares. C'est statistiquement, c'est nul, c'est zéro. Mais c'est arrivé. C'est arrivé, c'est des cas qui sont arrivés, qu'on croyait mort cérébrale, etc. Et ils ont revécu. C'est arrivé. Et pourtant.
Une personne qui décède peut donner un organe à une autre personne qui.
Non, là, la particularité de ce cas, c'était qu'il fallait le donner du vivant.
Oui, je comprends. Mais d'une personne qui décède fraîchement.
Non, je crois que c'est.
Même ça, c'est compliqué.
Non. Il faut qu'il soit encore vivant. La transfusion sanguine, alors.
Non, c'est autre chose, ça. Non,
non. Non, mais je reçois le sang de quelqu'un d'autre.
C'est ça. Ouais. Ça, c'est pas.
Oui, mais ça ne pose pas de problème.
Est-ce qu'on a le droit?
C'est pas la même chose.
Le sang d'un
ou la moelle osseuse, des choses comme ça. C'est pas la même chose. Non, c'est pas un membre.
Non, mais là, on tue pas quelqu'un pour enlever le sang.
D'accord. Voilà. Bon, tout ça pour dire quoi? Voilà, on a pris. Non, mais c'est une question sérieuse. Vous savez que je parlais récemment avec des élèves parce que je donne cours à. Je donne cours le mardi à des élèves qui sont des étudiants, qui sont là, voilà, votre collège étudiant. Et il y a des élèves qui sont en médecine, ils m'ont expliqué qu'une grande partie des premières années, ils s'arrêtent beaucoup sur l'éthique médicale. C'est un grand problème aujourd'hui. Ils s'arrêtent énormément aujourd'hui sur l'éthique médicale, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on apprenait les règles, les techniques et c'est tout. Et maintenant, ils s'arrêtent beaucoup sur l'éthique médicale parce qu'il y a des nouveaux problèmes, des dilemmes comme ça. C'est-à-dire, d'un côté, tu peux être appelé meurtrier, d'un autre côté, tu as sauvé une vie. Comment tu réponds à cette question? À part le côté halakhique, je veux dire l'éthique médicale. Aujourd'hui, ils passent beaucoup, beaucoup de temps dans les universités pour traiter de ça. Parce que c'est très compliqué, l'éthique. L'éthique médicale, c'est pas seulement comment annoncer à un patient qui va mourir. C'est beaucoup plus que ça. C'est des cas comme ça.
Les clones et beaucoup.
Exactement. Et plus on va avancer dans le temps, plus ce sera compliqué. Bon, on va revenir à notre sujet. Donc, en tout cas, ce qu'on a compris, c'est que phase A, c'est quoi? C'est les mitzvot. Ça veut dire sans réfléchir, soumis comme une machine, je fais les choses comme le patriarche, parce qu'il faut le faire. C'est phase A, et c'est très bien, et c'est très important. On accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, phase A. Phase B, c'est quoi? Je me casse la tête. Et plus je sens qu'il y a un blocage, mieux c'est. C'est les cours comme ça qu'il faut aller. Quand tu sens que tu vas à un cours, tu sens que ça coince, c'est que c'est bon, c'est, tu avances. Si tu sens que ça coince pas, c'est qu'il n'y a rien du tout, il n'y a pas de résistance. Quand tu as de la résistance, ça montre qu'il y a un effort. Donc là, c'est bon, ça veut dire qu'on fait quelque chose. Quand je cours et que je sens que je commence, ça commence à être difficile. Un sportif, une fois, il m'a dit ça. Il m'a dit, quand je cours, j'attends que je sente que je force. Il m'a dit, au début, quand je marchais, je faisais 200 mètres, je sentais que j'étais essoufflé. Il dit, maintenant, pour commencer à sentir être essoufflé, il faut que je marche 10 km. Et là, quand je marche 10 km, je commence à sentir que ça y est, je commence à forcer. Il m'a dit, et là, quand je commence à forcer, là, c'est du sport. Pas enfin, comme il y a aujourd'hui. Il m'a dit, là, c'est du sport. C'est le pchat. D'accord? Ça veut dire, quand tu sens que tu forces quelque chose, là, ça veut dire que, pareil dans la réflexion. Quand tu sens que tu coinces, ça veut dire que c'est bien, on est en train d'avancer. Et qu'on va avancer un peu dans les mots. Kiratson à Elion, Hu advar alacha atzma shemehar er ou medaber. Maintenant, il va pousser un peu plus loin. Il dit, imagine-toi. Imagine-toi maintenant qu'on est en train de se casser la tête sur un morceau de Gemara ou un morceau de Tania. Maintenant, ce que j'étudie, c'est la volonté de Dieu. Puisque la Torah, c'est les mots d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est pas seulement que je me suis enveloppé d'Akadosh Baruch Hu. J'ai un mot de la Torah d'Akadosh Baruch Hu qui est dans ma tête. Donc je vais intégrer Akadosh Baruch Hu dans ma tête. Vous me suivez? Ça veut dire, on a ici une qualité extraordinaire qu'on a dans l'étude de la Torah qu'on n'a pas dans les mitzvot. Quand je vais faire une mitzvah, je vais m'envelopper d'une kedusha, mais je peux l'enlever. Mais quand je vais étudier la Torah, c'est pas que je vais m'envelopper de la quête de la Torah. Je vais ingérer la Torah. La Torah va rentrer dans moi à tel point que je peux dire que j'ai un morceau de la Torah d'Hachem qui est dans ma tête. C'est des neurones, ils sont où ces neurones? Ben, ils sont dans ma tête. Ça veut dire que maintenant, quand je vais dire moi, dans le moi, il y aura aussi un morceau de Torah qui est en moi. Quand on va parler de moi, de mon vécu, de ce que je connais, etc., il y aura un morceau de Torah qui est dans ma tête. C'est énorme. Ça veut dire que, en étudiant la Torah, je mets un morceau d'Akadosh Baruch Hu dans ma tête. Comme dit la Gemara, il dit, tout celui qui étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu, il dit, Oti atem lo krim, vous me prenez. Akadosh Baruch Hu dit, celui qui étudie la Torah, c'est comme si qu'il me prend. C'est comme si tu prends Dieu, tu l'enfermes dans ta tête. Je l'ai enfermé dans ma tête. Je l'ai rentré dans ma tête, et j'ai une parole de Torah d'Akadosh Baruch Hu dans ma tête. Pourquoi? Parce que c'est quoi la volonté de Dieu? Là, maintenant, on va rentrer un peu dans les mots. Kiratson Elyon hu advar alacha atzma, shemehar er ou medaber ba. Quand j'étudie une alacha, qu'est-ce que je fais? J'étudie la volonté de Dieu. Pourquoi j'appelle ça la volonté de Dieu? Shekol alachot en prate amshachot pnimiyud ratson elyon atzmo. Toutes les alachot, finalement, c'est les dérivés de la volonté de Dieu. J'explique. Shekar ala birtsonoit barer, comme ça Dieu a décidé. Shedavarze mutar au kasher au patour au lefer. Qu'est-ce que je fais? Et ça, vous savez, c'est une grande difficulté qu'on a avec les gens quand ils commencent à étudier la Gemara. C'est quoi? C'est que quand on étudie la Gemara, ou même la Torah en général, on n'étudie pas du tout de la même manière qu'on réfléchit des sciences. Quand on étudie des sciences, par exemple, tout peut être remis en question. Quand vous étudiez la Gemara, c'est vrai qu'on peut remettre beaucoup de choses en question, mais quand, par exemple, vous étudiez la Gemara, on te dit, voilà, on pose une question, on dit, non, on ne peut pas dire ça parce que Rabbi Intel, il a dit ça. Et alors, si Rabbi Intel a dit ça? Ah ben non, Rabbi Intel, c'est un maître de la Mishnah, ça on peut pas toucher. Pourquoi on peut pas toucher? Ah, parce que c'est un maître de la Mishnah. Ça veut dire que quand on étudie la Torah, il y a des postulats. Il y a des postulats auxquels on est obligé d'arriver, que finalement, on arrive à un niveau dans lequel ça, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on essaye de comprendre quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je vais aller un peu plus loin. Ça veut dire quoi?
Alors, si c'est des actions...
Mais... Alors, non, justement. J'essaye de comprendre, mais je me base sur un postulat. Et les postulats, c'est les choses qui sont écrites. Quand j'essaye de comprendre la Torah, qu'est-ce que j'essaye de comprendre? J'essaye pas de comprendre qu'est-ce que moi je veux faire, ou qu'est-ce que moi j'ai envie. J'essaye de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Je vais reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Lorsqu'on a posé la question à ces rabbanim, pour d'un côté cette madame qui était accidentée et qui allait partir, qui était morte cérébralement, de l'autre côté ce rave qu'on pouvait sauver sa vie. Lorsqu'on est parti poser la question chacun aux rabbanim respectifs de chaque famille, les rabbanim qui ont réfléchi à cette question, ils n'ont pas réfléchi à quelle conclusion je veux arriver. C'est pas, hein, il a dit, bon, moi je vais arriver à la conclusion que c'est cachère, donc je vais trouver une manière de dire que c'est cachère. Ça marche pas comme ça chez nous. Excusez-moi, je vais arriver au bout du raisonnement. Ils sont arrivés, quand ils ont ouvert les livres pour essayer de poser la question, ils ont essayé de se poser la question, quelle est la volonté de Dieu? Et ça, c'est un chidouche. C'est-à-dire, c'est pas comme dans les autres sciences. Dans les autres sciences, quand le scientifique il prend son livre, il se pose pas la question qu'est-ce que Dieu veut. Il se pose la question qu'est-ce que moi, le scientifique, j'ai compris. Mais c'est pas comme ça qu'on étudie la Torah. Quand j'étudie la Torah, c'est pas je me dis je vais arriver à cette conclusion, comment je vais y arriver. Non, c'est pas ça. Je me pose la question objectivement, quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant? Alors comment je vais faire? Eh ben je vais chercher. Je vais ouvrir les livres et je vais chercher et je vais essayer de me casser la tête pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant. Donc quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Donc en d'autres termes, les mitzvot, c'est la volonté de Dieu. La Torah, c'est quand j'étudie et j'essaye de comprendre quelle est la volonté de Dieu. J'essaye de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi. Et ça, c'est la Torah. D'ailleurs, vous savez, on dit qu'il y avait une ville de Chassidim qui s'appelait Nevel. Et dans cette ville de Chassidim, on dit que quand ils étudient la Gemara, ils étudient la Gemara comme ça. C'est-à-dire, 2 mètres de la Gemara, par exemple, c'est Abaye et Rava. Et, par exemple, alors quand ils étudient Abaye et Rava, ils disaient comme ça. Abaye, il a dit, par exemple, Abaye, il a dit kasher, Rava, il a dit pas kasher. Alors, ils étudient là-bas comme ça. Ils disaient, Abaye, il a dit, la volonté de Dieu, c'est qu'on le mange. Rava, il a dit, la volonté de Dieu, c'est qu'on ne le mange pas. C'est-à-dire, c'est pas, on étudie pas les choses sèchement. C'est pas que je vous dis, qu'est-ce que moi, je veux arriver en conclusion. Quand on étudie la Torah, on essaye de chercher quel est le ratson, quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. J'étudie le ratson, la volonté d'Akadosh Baruch Hu.
D'ailleurs, à chaque fois, il se base sur des psukim.
Exactement. C'est pour ça que je dis, c'est très difficile. Ça, quand j'étudie la Gemara, des fois, avec des gens brillants, mais des gens qui n'ont pas l'habitude d'étudier la Gemara, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, tu lui dis, par exemple, on étudie un truc, tu donnes une halakha, tu dis, on tient ça, il y a un pasouk. Il dit, mais alors, s'il y a un pasouk? Mais j'ai pas compris. Ah, mais il y a un pasouk. Mais alors? Je dis, mais attends, mais s'il y a un pasouk, c'est-à-dire, ça, c'est la volonté de Dieu. C'est tout. Ça veut dire qu'une fois que je suis arrivé à la conclusion dans ma tête que ça, c'est la volonté de Dieu, après, même si j'ai pas compris, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est comprendre quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu.
Le pasouk, il vient pas de la volonté de Dieu, il vient de la volonté haramim.
Ah non, le pasouk, c'est la Torah. Non, je parle d'un pasouk, par exemple, du Chumash.
Ah oui.
C'est la Torah.
Ah oui, donc c'est puisé dans le.
Ah bah oui, là, on touche pas. Pourquoi tu touches pas? Parce que, encore une fois, moi, mon but, c'est de chercher à comprendre quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, vous voyez que c'est vraiment complètement différent des autres sciences. Et là, par rapport à votre question, monsieur Bergel, là, vous avez posé la question, vous avez dit, après on va finir. Vous avez posé la question, vous avez dit, est-ce qu'il y a ça que dans la Torah? Ce point-là, il n'y a que dans la Torah. Alors, il y a un commentaire qui dit que des fois, il y a certaines sciences dans lesquelles les scientifiques, ils cherchent la vérité pour la recherche de la vérité. Mais c'est très très rare, de plus en plus rare aujourd'hui. Des gens qui cherchent la vérité que pour la recherche de la vérité. C'est-à-dire que même si la conclusion à laquelle ils arrivent n'est pas la conclusion qu'ils cherchent au début, ça les dérange pas. Vous voyez ce rave-là qui a cherché? Au début, il avait sa petite idée. Bon, il cherche. Ça le dérange pas s'il arrive à une conclusion contraire à ce qu'il pense au début. Ça le dérange pas. Lui, son but dès le départ, c'était pas d'arriver à telle conclusion. C'était de chercher la volonté de Dieu. Si maintenant je suis arrivé à la conclusion que Dieu veut autrement, ça me dérange pas. Ça, c'est très rare aujourd'hui dans les autres sciences. En général, il y a des conclusions auxquelles on veut arriver et on fait tout pour diriger vers une conclusion.
Alors, par exemple, dans l'exemple que vous avez cité tout à l'heure, ouais, ce rav avec ce rein, etc.
Oui.
Comment un grand rav pour trancher, il va trouver dans le Chumash la volonté de Dieu pour trancher?
Alors, très bonne question. Il fera exactement comme des juges auraient fait pour chercher des cas qui ne sont pas dans le code civil ou dans le code pénal. On va aller chercher des jurisprudences. C'est-à-dire des cas.
Il n'y a pas de jurisprudence, c'est des textes qui ont.
Oui, mais j'ai compris, mais ça veut dire. On va chercher des cas similaires. Donc ça veut dire qu'il faut décomposer le cas actuel pour essayer de comprendre quelle est la logique du cas et essayer de le faire comparer à autre chose. C'est ça, c'est ce qu'ils font les juges. Même en France. Qu'est-ce qu'ils font les juges? Ils vont prendre le cas. La force d'un juge, c'est quoi? C'est d'aller au-delà du côté technique du cas. Quitter la technicité du cas, aller dans la logique du cas et essayer de retrouver, donc de décomposer le cas et de se poser la question à quel autre cas qui lui est écrit dans le code civil ou le code pénal, à quel autre cas ce cas ressemble.
Mais oui, mais
c'est ce qu'ils font.
Il n'y a pas de jurisprudence. Aujourd'hui, il n'y a pas de jurisprudence.
Si, bien sûr qu'il y a de jurisprudence.
Par rapport à ce que vous dites, il n'y a pas de jurisprudence.
Il y a de jurisprudence, bien sûr.
Mais il n'y a pas des actes qui ont été faits.
Il n'y a pas des.
Il y a pas
oui, mais il y a des cas similaires. Par exemple, quand on vous parle de l'électricité, l'électricité n'existait pas à l'époque de la Gemara.
Non, mais je vous parle de.
Voilà, je vous donne un exemple. Quand,
mais
par
exemple. Si, l'électricité, c'est du feu, ça n'a rien à voir.
D'où vous savez que l'électricité, c'est du feu?
Comment?
Qui vous dit que l'électricité, c'est du feu?
Non, parce c'est que je l'ai étudié.
Attendez, mais.
Scientifiquement.
Oui, d'accord, mais il faut chercher.
Je peux pas vous prouver alarchiquement que le fait de prélever un rein sur une personne qui est.
Si, il y a des cas dans la Gemara qui parlent de ça. Des cas dans la Gemara où on parle de gens qui étaient presque morts, où on parle des animaux aussi qui sont presque morts et qu'on ne sait pas s'ils sont morts
oui,
ou pas.
Moi aussi j'ai un arrière-grand-père qui était mort et qui s'est réveillé,
voilà.
Il a senti l'odeur des fèves. Et il s'est réveillé, il a voulu des fèves à 105 ans, je ne sais pas quoi, et il est remort 5 minutes après ou 10 minutes après. Mais, je ne sais pas si je
jurisprudence, ça veut dire qu'on va, c'est pas jurisprudence sur le cas.
On va prendre des cas qui ont été déjà similaires
Et on va s'imposer.
Mais quand je dis similaire, c'est pas similaire dans le sens que on va chercher un cas de mort. C'est que des fois, une jurisprudence, des fois, on peut chercher un cas qui, a priori, n'a aucun rapport, dans un autre registre, aucun rapport, mais la logique est la même. Un cas similaire, mais des fois, c'est dans un autre registre.
Quand tu parles, pardon,
c'est un mécanisme.
Quand tu parles de jurisprudence, ils inventent rien.
Oui, bien sûr.
Les mécanismes, il faut qu'il y ait des faits
au départ. On n'invente rien dans la jurisprudence.
Non, mais il faut qu'il y ait des décisions de justice à la fin.
Plusieurs éléments
pour pouvoir
donc on va se
pour tel cas il s'est passé telle chose, telle chose, telle chose.
Donc si il y a des responsables très poussés, des responsables.
J'imagine que dans les années à venir, il y a un moment où
il y a des responsables. Il y a des responsables très poussés sur ça. Non, ça me dérange pas ça.
Non, c'est moi, c'est pas
par définition, on peut pas statuer de manière unilatérale. C'est impossible. C'est une dictature ça. Par définition, ça nous dérange pas, et ça a jamais été comme ça chez nous dans la Torah, qu'il y a eu un avis pour tout le monde. C'est ça chez les Russes, ça, c'est pas chez nous, ça. D'accord? Ça nous dérange pas qu'il y ait différents avis. Au contraire. Quand on laisse chacun s'exprimer.
Pendant ce temps, il y a peut-être des dizaines
de chacun a son avis.
Des gens qui peuvent peut-être être sauvés et qui ne le sauront pas.
Mais qui vous dit que la volonté de Dieu, c'est que cette personne-là va être, et si on va vous dire que la volonté de Dieu est que quand cette personne-là, vous allez lui enlever son rein, vous l'avez tué. Et qu'en vérité, vous avez tué une personne. Pour peut-être de faibles chances de s'en sauver une autre.
On commence à rentrer dans des discussions comme ça.
C'est une discussion sérieuse.
Alors c'est Dieu qui a voulu que cette personne ait un AVC.
Mais vous savez qu'enlever une seconde de vie à quelqu'un, ça s'appelle le tuer. Vous savez qu'une personne, par exemple, est mourante, on n'a pas le droit de le toucher. Parce que si on le touche,
on peut précipiter
sa mort d'une seconde. Et précipiter la mort d'une personne d'une seconde, c'est appelé le tuer.
Oui, mais je sauve une autre vie.
Non, je parle pas de ça, je parle dans le concept. Ça veut dire voilà, on a la Torah. Après, il faut.
Non, moi, je fais pas un jugement de valeur. Voilà. Encore une fois, moi, je fais pas de jugement de valeur. Je dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Je dis pas il faut prélever pour sauver des gens. J'ai pas cette prétention là. Moi, je suis rat des pâquerettes. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a des cas de conscience qui se posent, qu'on a des gens, grâce à Dieu, qu'on a des gens brillants en Israël, des gens brillants, qu'on se retrouve avec des problèmes scientifiques, enfin, des choses concrètes scientifiquement qui sont applicables, qui sont utilisables depuis qui sont en cours, enfin, on utilise depuis les premières grèves datent depuis maintenant 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus quand a été greffé le premier. Aujourd'hui, on arrive à des choses assez extraordinaires et je suis un petit peu étonné que là, vous me parlez de réflexion, j'adhère.
Non, mais chaque grave arrivera à des conclusions.
Vous comprenez que j'adhère. Je comprends tout à fait ce que vous dites, que la réflexion, moi j'adore me casser la tête, j'adore comprendre, et quand je ne comprends pas, je deviens encore plus fou, et ça me rend encore plus fou, j'ai un esprit un peu, je me fais toujours un petit peu l'avocat du diable, parce que je vais essayer de comprendre.
Je vous rassure, chaque rave trouvera des conclusions, voilà. Et chaque personne a son rave, et son rave s'arrangera pour lui donner une conclusion. Mais dans l'ensemble du peuple juif, il y aura des rabbinis qui tireront comme ça, des rabbinis qui tireront comme ça. Maintenant, chaque personne individuellement suivra son rav, qui lui donnera un psak, qui va le trancher. Mais avoir un psak pour tout le monde, universel, c'est pas possible. Mais non, justement, il y a des cas qui sont pas écrits en Shulchan Aruch. Même Shulchan Aruch, il y a différentes manières de le comprendre. D'accord? Donc pour conclure, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Les mitzvot, c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément chercher à comprendre. C'est-à-dire, une fois qu'on l'a fait, ce qui compte, c'est qu'on l'a fait. Mais ce qu'on a expliqué aujourd'hui, la phase B, on s'est beaucoup arrêté dessus. L'importance de la réflexion, de se casser la tête. Et pas se casser la tête pour arriver à une conclusion. Dans le sens, je veux arriver là-bas, donc je veux tous les chemins sont bons pour arriver là-bas. Non. Moi, je cherche. J'ai ma petite idée, mais moi, je cherche. Ça me dérange pas si au lieu d'arriver là-bas, je suis arrivé là-bas. Ce qui compte, c'est qu'il faut qu'à la fin, quand j'ai terminé, quand j'ai fermé le livre, le rave, quand il va donner son psak, il faut qu'il sente ce que j'ai dit, je pense que ça, c'est ce que Dieu attend de moi maintenant. Quand il arrive à sentir ça, il dit, c'est bon, j'ai mon sac. Pas c'est ce que moi, j'ai envie de dire. Ça, on n'a rien à faire ce que lui, il veut dire. Sinon, il aurait pu dire dès le départ. Il faut qu'il sente que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut dire. Et là, quand il arrive à ce niveau-là, ben là, il peut donner son sac, et là, il peut dire qu'il s'est cassé la tête et qu'il a tranché. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Pour le Talmud, quand on pose une question, oui. Après dans le Talmud, on peut dire ça, je peux pas aller dans cette direction, parce qu'un maître de la Mishnah, déjà, bloc. Avant,
oui.
avait dit autre chose. Ça veut dire que le maître de la Mishnah, il s'était posé la question que tu as posée.
Certainement, bien sûr.
La réponse casse-toi la tête, trouve-la.
Oui.
Ça ne veut pas dire que c'est un axiome.
Oui, mais ça veut dire quand même, dans d'autres sciences, on remet tout en question. Et là, il y a des choses qu'on ne peut pas remettre en question dans la Gemara.
Parce que tu n'es pas assez intelligent maintenant pour pouvoir arriver.
Alors si je ne suis pas assez intelligent, pourquoi je cherche?
C'est pas une question d'intelligence.
Mais c'est encore une fois, si je ne suis pas assez intelligent, pourquoi je cherche? C'est ça la réponse. La réponse, c'est que dans la Gemara, on ne cherche pas quelque chose pour prouver son intelligence. On cherche parce qu'on cherche à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Donc ce qui a déjà été statué avant, on touche pas. Mais on cherche à comprendre des choses qui ne sont pas statuées, on cherche à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Si maintenant on a eu des maîtres avant qui nous ont dit, voilà, la halakha est comme ça, ben c'est comme ça. Par exemple, maintenant, est-ce qu'il y a des rabbins qui vont s'assembler pour décider, tiens, peut-être que le Shabbat, c'est le dimanche, c'est pas le samedi. Peut-être. Pourquoi ils le feront pas? Parce que c'est déjà statué, c'est déjà clair. On sait que la volonté de Dieu, il a dit clairement que sa volonté, c'est que le Shabbat soit le samedi. Donc on va pas y toucher. On sait qu'il y a une semaine de 7 jours et que le Shabbat, c'est samedi. On va pas y toucher. Par contre, certaines mitzvot du Shabbat, ce qui est permis, ce qui est interdit, il y a des choses qui sont pas statuées, c'est pas clair. Là, on va se casser la tête, pas pour savoir ce que je peux faire, pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Et c'est ça qui se casse la tête. Vous savez que les maîtres qui étudient la halakha, ça leur demande beaucoup d'irat shamaim, beaucoup de crainte de Dieu. On a vu des gens, par exemple, je termine avec ça, mais on a vu des gens, par exemple, comme ça, hein, des gens qui étaient pas spécialement, qui craignaient pas spécialement Dieu, bon, des gens qui pensaient pas spécialement à ça, et quand ils sont rentrés dans le monde de la halakha, on a vu comment ça les a changés. À force de se casser la tête pour comprendre qu'est-ce que Dieu y veut, ben, t'as Dieu dans ta tête. Ça veut dire, quand tu fermes ton lit, tu dis, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pas, qu'est-ce que moi j'ai envie. Et ça, c'est ce qu'on a quand on étudie la halakha et quand on se casse la tête pour avancer dans la Torah. Voilà, bon, on pourrait dire encore et encore et encore, mais j'ai dépassé, donc on continue la semaine prochaine.
Il y a un grand sociologue qui est aussi de mémoire.